I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ceci est le dernier épisode de cette première saison de On the Verge que je qualifierai de dingue. Avant de laisser la place aux questions posées par vos soins et aux réponses apportées par les professionnels qui m'ont fait l'honneur de répondre à mon invitation, je tenais à vous remercier très sincèrement pour ces 6 mois passés en un rien de temps. 11 témoignages touchants, bouleversants, intéressants, excitants, voire fascinants. Merci à Émile, F, Mathieu, Pierre, Aymen, Mo, William, Olivier, Thibault, Loïc et Mathieu. Plus de 300 000 écoutes de ces différentes rencontres. Des relais médias assez fous, Mademoiselle, Radio Tips, Elle, Version Femina ou encore Le Monde pour ne citer que. Comme je vous le dis lorsqu'on interagit ensemble, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail, ce qui est formidable, c'est le pouvoir de la libération de la parole masculine. La force qu'est le partage de ces expériences, des levées des tabous, des verbalisations des non-dits, des questionnements et des parcours pluriels. Finalement, c'est la réflexion qui entoure ces témoignages qui cheminent et c'est une réussite. Et pour moi, c'est la petite pierre que j'essaie d'apporter au mur de la construction d'un féminisme paritaire et éthique qui prend forme. Merci encore. Merci aussi à toutes ceux et celles qui me soutiennent. Vous vous reconnaîtrez. Merci, merci, merci. Sachez que j'échange volontiers avec tous ceux qui le souhaitent et j'ai bien noté vos remarques et vais faire en sorte, pour la deuxième saison, de diversifier les profils au maximum, dans les âges, les ethnies, les orientations, les pratiques, que sais-je. Le prochain épisode sera en ligne le 5 septembre. Maintenant, après cette intro un peu longue, je vous laisse avec cet épisode de fin de saison avec le médecin sexologue Gilbert Boujaoudé, Céline Niederhofer, qui a été 10 ans love coach, et également présent, Simon, le cofondateur de la plateforme de santé masculine Charles.co. Nous avons essayé de répondre à toutes vos questions posées sur la santé et la sexualité masculine. Bonne écoute, prenez soin de vous et bel été à tous. Bienvenue dans cet épisode spécial de On the Verge qui va clôturer cette saison 1. Je suis extrêmement bien accompagnée. Donc, on va commencer par ma gauche, docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Donc, merci Gilbert d'être là, c'est très sympa.
Merci à vous de nous accueillir.
Ensuite, j'ai Simon qui est en face de moi, qui est le fondateur de Charles.co.
Tout à fait, merci de m'accueillir.
Grâce à ton associé Olivier et toi que nous sommes là, puisqu'on a fait un crossover On the Verge et Charles.co, est-ce que tu peux dire en quelques mots qu'est-ce que c'est la plateforme ?
Donc Charles.co, c'est une plateforme de santé dédiée aux hommes, sur lesquels on les aide à répondre à plein de problèmes de santé, et notamment on a lancé depuis un mois sur un premier problème qui sont les troubles de l'érection. Donc un homme concrètement qui a des problèmes d'érection peut venir sur notre site, téléconsulter avec un médecin sexologue comme Gilbert, et potentiellement, s'il y a une prescription de traitement, se faire livrer ses traitements à domicile. Et en plus de ça, à la fin, on l'accompagne dans son parcours, son observance et sa santé un peu plus large ensuite.
Ok, très clair. Donc t'as avec moi, tu feras un peu le maître de cérémonie entre ces deux messieurs qui sont spécialistes.
Exactement.
Et le dernier qui est à côté de moi, à droite, c'est Céline Niederhofer. Céline, on se connaît depuis longtemps, donc on va pas tout voyer, faire
on
des trucs
faire
comme
semblant.
Ça.
Semblant. Bonjour Anne.
Bonjour Céline. Céline, tu as été love coach pendant 10 ans pour Art de séduire et aujourd'hui life coach. Donc tu as une grande connaissance de la problématique du rapport à l'autre et à la femme chez les hommes, puisque tu en as accompagné beaucoup.
Exactement. Et ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est qu'on parle assez rarement sur Art de séduire du fait que le manque de confiance en soi, sexuellement, ça impacte négativement la séduction. Quand on n'a pas confiance en soi dans sa sexualité, on n'ose pas y aller parce que je sais que je vais foirer, je sais que ça va pas fonctionner, donc je vais même pas aller aborder cette fille qui me plaît. Donc c'est pour ça que je suis très heureux d'être là.
Ça conduit même assez souvent à des formes d'isolement. Pour éviter d'être confronté à une situation où on va être en échec sur le plan sexuel, on va forcément éviter une relation. En évitant une relation, on va se retrouver en isolement, parfois même affectif. Et effectivement, parfois, il suffit de résoudre un petit problème sexuel et on a l'impression que tout le reste déroule. Oui.
Mmh. Ok, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va, on a trois thématiques que j'ai définies grâce aux réseaux sociaux où pas mal d'internautes et socionautes m'ont envoyé leurs questions. Donc j'ai trois thématiques qui sont les questions psy, les questions santé et les questions sexo. Donc on va commencer par les questions psy. Moi, ce que je te propose, si t'es ok, Simon, que tu m'aides un peu à animer tout ça. L'idée, c'est très simple, hein, c'est qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement. Moi, j'ai pris toutes les questions, j'ai essayé un peu de mutualiser quand il y avait des doublons, mais je n'ai rien censuré. Donc, je vous ai envoyé quand même les questions pour que vous ayez un petit œil dessus, mais en tout cas, sentez-vous libre, Célim, Gilbert, de répondre. Et toi, aussi, Simon, parce que finalement, tu as un pénis, donc peut-être que tu
J'ai un pénis, et surtout, je suis au contact de pas mal d'hommes depuis qu'on a lancé le site, puisqu'on a beaucoup qui nous appellent pour avoir des infos, etc. Donc, j'ai vu pas mal de choses.
Il faut se passer, ouais. Super, parfait. Donc, on va commencer tout de suite. Comment aider un homme à s'enlever la pression de la performance? D'accord.
Il y a énormément de choses à faire. Déjà, on en parle très souvent socialement, en fait. Il y a une notion de performance dans tout, hein, pas que sexuellement. Et la première chose à faire, à mon avis, c'est de prendre conscience qu'on est là-dedans. On ne peut pas enlever la notion de performance si on n'est pas conscient qu'on est en train de fonctionner comme ça. Ensuite, pour enlever, une fois qu'on en a pris conscience, je pense qu'il y a deux, trois astuces. Par exemple, quand on demande à un homme pourquoi il veut être performant. À votre avis, c'est quoi la réponse la plus fréquente? Quand on dit, mais pourquoi tu veux être performant au lit?
Pour faire plaisir à sa femme.
Alors, quand on lui demande pourquoi il veut faire plaisir à sa femme?
C'est parce qu'il n'a pas le choix.
Mais non, c'est parce que ça le rassure lui.
D'accord.
Donc en fait, tout d'un coup, on lui dit, donc tu veux être performant pour te rassurer toi. Donc c'est pas pour donner du plaisir à la femme. Mais ok, soit. On va essayer de te rassurer en faisant de sorte que tu donnes plaisir à la partenaire. En parlant des hétéros, hein, parce que chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, ça existe, mais c'est un peu moins présent. Et en fait, une des façons d'enlever la performance, avant même de commencer à rentrer dans des trucs psy de type confiance en soi, etc., mm-hmm. c'est déjà de savoir comment une femme a du plaisir. Par exemple, il y a un truc tout simple, tout bête, c'est dans l'enquête IFOP qu'on avait faite avec Charles Poinco, on a demandé à des hommes, est-ce que pour vous un rapport sexuel pour qu'il soit abouti, doit comporter une pénétration. Et la majorité a répondu oui.
Alors que non.
Si on posait la question aux femmes, la majorité répondrait que non. Et d'ailleurs, j'ai dit récemment dans une autre émission, si la pénétration devait être le clou du spectacle, si vraiment la pénétration devait être ce qui donne du plaisir aux femmes, le clitoris aurait été au fond du vagin et pas
Exactement.
Dehors.
Exactement. C'est une bonne nuit.
Voilà. Okay. Et quand on commence à faire expliquer à un homme que si tu veux vraiment être performant, pour donner du plaisir, apprendre déjà comment une femme a du plaisir. Et en général, c'est un peu pour déstructurer l'idée qu'on a de la pornographie, que c'est la performance physique, c'est ce qu'on voit, le Superman qui est en train de faire l'amour, etc. Et puis quand on lui explique, ben non, c'est pas comme ça qu'une femme a du plaisir. Déjà, ça enlève beaucoup de la performance. Si tu veux être performant, faut que tu sois plus cool. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Et ensuite, il y a la notion de confiance en soi, bien sûr. Plus on a confiance en soi, moins on va chercher la performance, puisqu'en général, on n'a plus besoin de se rassurer.
Est-ce que les partenaires peuvent aider justement à ça, à aider son partenaire à avoir confiance en lui et à justement le calmer dans ses prétentions de performance?
Oui, elles peuvent le faire. D'ailleurs, il y a une enquête très rigolote qui a été faite. On a demandé aux femmes pourquoi elles simulent au lit. Mmh. Et figurez-vous qu'il y avait plus de 35 réponses différentes, parce qu'on n'imaginerait pas qu'il y ait autant de raisons. Et parmi les raisons les plus importantes, c'était pour faire plaisir au mec, pour le rassurer. Et quand on vient de mettre les deux idées, là, qu'on vient de dire en même temps, on se dit, putain, il y a les mecs qui sont en train de performer pour donner plaisir aux femmes, et les femmes qui sont en train de simuler pour donner plaisir aux mecs. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Ouais. Il faudrait calmer un peu tout ça. Et donc, effectivement, ce que la femme peut surtout faire, à mon avis, c'est de lui expliquer comment elle a son plaisir. Comme ça, le mec, il n'est pas obligé de faire des performances de malade en espérant que ça va donner du plaisir. C'est de le guider un peu à la fois. Le côté rassuré, dire ça va aller, etc., c'est sympa, c'est très bien. Et je préfère ça encore à une femme qui dit au mec, ouais, t'es un nul. Et... Mm-hmm. Enfin bref, ce qui est complètement cassant. Mais je peux vous dire que la majorité des mecs le vivent très mal. quand leur copine, je sais pas ce que tu en penses, quand leur copine dit ça va aller, c'est pas grave, les mecs ils le vivent super mal en général.
C'est la fin du monde pour un homme qui a des problèmes soit d'érection, soit d'éjaculation précoce par rapport à cette performance. On a été élevé avec, je dis on, j'ai 35 ans pour les auditeurs, on a été élevé avec ces images-là de la pornographie où ils durent, ils sont plus durs que nous, plus longs que nous, ils durent plus longtemps et on se dit oh là là c'est ça, et ça engendre tel plaisir chez l'actrice qui simule évidemment, qui hurle. Donc on a un peu cette construction là. On est élevé dans les vestiaires, on parle souvent un complexe du vestiaire, on joue au foot, ok. Donc c'est à qui racontera les anecdotes les plus folles. Donc le petit bonhomme qui a pas beaucoup d'expérience, il se dit ah putain c'est ça le sexe. Et en vieillissant, par rapport au fait d'être rassuré, je pense que c'est à nos partenaires de nous expliquer, ok, c'est pas ça que je recherche forcément. Dans ce que vous disiez à l'instant, il y avait le côté de, il faudrait que la femme montre à l'homme comment elle prend du plaisir. Et ça, c'est très intéressant parce que elles ne le savent pas toujours.
C'est-à-dire, elle-même, c'est tellement imprégné l'idée, par exemple, que la pénétration, c'est le point central. C'est tellement imprégné qu'on voit beaucoup de femmes qui disent, j'ai un problème, j'arrive pas à jouir par pénétration. C'est-à-dire, même la femme, elle pense que c'est comme ça que ça doit s'accomplir. Il y a encore un livre qui est sorti, je vais pas dire le nom du livre ni l'auteur parce que je suis pas d'accord avec ce qu'il y a dedans. Et c'est une femme qui l'a écrit et qui dit, une femme qui n'arrive pas à jouir par pénétration, c'est qu'elle n'a pas encore réussi à érotiser son vagin. Ce qui revient encore une fois à considérer que c'est l'organe du plaisir. Et à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qui fait le clitoris là-dedans et qu'est-ce qui fait le périnée?
Surtout qu'on est toutes très différentes. Il y a des femmes qui peuvent jouir par pénétration parce qu'effectivement, les cavités du clitoris vont tellement loin que ça peut
stimuler.
Effectivement, la morphologie de chacune est différente. D'autres qui vont pas du tout jouir par pénétration. D'autres qui peuvent jouir par pénétration anale. Enfin, c'est vraiment.
C'est extrêmement rare.
Chacune est différente là-dessus.
Je sais pas si vous avez déjà remarqué, on voit jamais aucun texte qui dit à un mec comment il doit jouir.
C'est
par
vrai.
Contre, on en voit plein pour dire aux femmes comment elles doivent jouir. Et je pense qu'il est temps qu'on foute la paix aux femmes et ça rendrait service aux mecs. Parce qu'à partir du moment où les mecs se disent, mais en fait, elle peut jouer comme elle veut, et que c'est pas, d'ailleurs, une des grosses erreurs qu'on entend, c'est comment faire jouir une femme. Et oh, si elle veut pas jouer, elle jouera pas.
Oui, c'est ça aussi. Et puis il y a pas que le corps. Il faut aussi que le psychisme, le mental, la condition érotique soient réunis. Il y a des femmes qui peuvent pas jouir comme ça juste parce qu'elles sont stimulées.
Exactement.
Elles ont besoin aussi d'un contexte.
Et elles peuvent de temps en temps ne pas jouir parce que ce jour-là, elles sont pas forcément détendues. Elles sont fatiguées. Elles ont bu un coup de trop. Enfin voilà. Et donc, pour revenir à la question. Tout ce qu'on raconte là, c'est une façon de diminuer la notion de performance, parce que quand on comprend que ça fonctionne comme ça, on va moins aller dans la performance et un peu plus aller dans la découverte de ce qui se passe. Et donc, pour être performant, il faut prendre le temps de découvrir. Ça serait un peu ça le principe.
C'est ça, et de remplacer même mentalement la notion de performance par « et si j'allais sur l'intimité ?» Si je partageais un moment avec elle, si on était heureux tous les deux et qu'il n'y ait pas de notes à la fin. Vraiment, un moment d'intimité, un moment passé ensemble. Et du coup, ça enlève un peu cette angoisse de la performance.
Avant de passer à la prochaine question, je voudrais juste vous demander, parce que j'ai reçu cette question ce matin, c'était la dernière limite, c'est quoi la moyenne et de perte de virginité en France pour un homme et le nombre de partenaires sexuels? Parce que dans On the Verge, j'aime beaucoup poser la question, est-ce que ça rentre dans cette pièce? Parce que j'enregistre là où nous sommes assis, comme la pièce est grande, ce qui est très drôle, c'est de voir les réactions. Des fois, ils comptent et là, ils te disent... Ouais, mais un peu serré. Ouais. Et d'autres qui te disent.
Ça dépend de la position aussi. C'est debout.
Alors bon, on reste sur des personnes debout habillées. Simon, voilà. Mais il y en a qui me disent que non. Il y en a qui me disent qu'on pourrait faire une petite soirée. D'autres qui me disent que largement. Donc, c'est quoi la moyenne en France de partenaires?
Alors, l'âge déjà. L'âge du premier rapport sexuel. En France, ça ne bouge plus depuis des décennies. Ça a baissé tout doucement il y a une trentaine d'années. Et maintenant, ça plafonne aux alentours des 17 ans.
D'accord.
Je dis c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont à 14 ans, d'autres à 22 ans. Et c'est pour ça d'ailleurs que les chiffres et les moyennes et les statistiques, si vous me permettez l'expression, on s'en fout royalement.
Bien sûr.
C'est une statistique et pas une norme.
J'ai eu des gens qui ont témoigné ici qui, en fait, s'appuyaient vachement sur ça. Genre, notamment, une perte de virginité après 18 ans était un énorme complexe.
C'était une catastrophe,
Ouais.
Mais c'est très dur, c'est dur pour tout le monde parce que tu vois ces chiffres dans les magazines. 17 ans, mais c'est la terminale, il faut absolument que je couche avant le bac, tu vois, ou au pire l'été du bac pour rentrer à la fac et être un homme.
Mais c'est génial de dire on s'en fout, ça ne veut rien dire.
Complètement, c'est-à-dire nous en tant que professionnels, on n'en a rien à faire. C'est des statistiques qui sont faites, qui sont sympas, qui font un peu de publication, mais on s'en fout réellement. Je vous donne un autre exemple. La moyenne du nombre de rapports sexuels dans un couple stable. Alors, ils prennent les couples hétérosexuels ensemble depuis plus de 6 mois et on regarde sur une année la moyenne, combien de rapports sexuels ils ont par semaine. Et on a 2,2 rapports sexuels par semaine. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce truc-là? Ça veut dire quoi? Qu'ils ont fait l'amour 2 fois et la 2e fois, ils ont fait quelques léchouilles, ils ont arrêté parce que c'est la fin de la semaine.
Il y a autre chose à faire.
On s'en fout royalement.
Une machine.
Un épisode de Tchernobyl.
Ça veut dire que, ça veut dire que c'est des personnes qui, pendant 3-4 semaines, n'ont pas eu de rapport sexuel et puis tout d'un coup, ils sont partis en semaine une vacance et ils en ont eu plusieurs, puis ils sont revenus. Donc, on s'en fout royalement. D'ailleurs, les enquêtes de satisfaction de sexualité, de plaisir, d'existence ou non de problèmes sexuels, ne correspondent absolument pas ni à l'âge de début de l'acte sexuel, des premiers rapports sexuels, ni au nombre de partenaires. On peut avoir un nombre de partenaires infini et ne pas avoir une bonne satisfaction sexuelle, comme on peut avoir une ou deux partenaires ou un ou deux partenaires, être complètement satisfait. Donc ces chiffres-là, c'est sympa à connaître, c'est rigolo, mais on s'en fout réellement.
Ok, et le nombre de partenaires dans une vie sexuelle ?
La moyenne, c'était les Français, les hommes, disaient à peu près 11 de mémoire, et les femmes étaient sur 4 ou 7.
C'est ça.
Donc on avait plutôt 4, je crois.
Il y avait
donc
un décalage, ce qui voulait
déclaratif,
dire qu'il y avait des femmes qui allaient avec plusieurs mecs,
les deux.
Ou l'inverse. Ou,
oui. Les deux mentent. Les hommes, généralement, dit à la hausse, et les femmes à la baisse.
Exactement. On voit la même chose quand on fait les enquêtes sur... est-ce que vous avez déjà reçu une fellation ou est-ce que vous avez déjà pratiqué fellation? Est-ce que vous avez pénétré sodomie? Est-ce que vous avez été pénétré sodomie? Il y a un décalage dans les chiffres. On se dit, c'est pas possible, ça doit mentir des deux côtés.
À un moment donné, ça ne...
Et puis, vous voyez, on disait 11 partenaires en moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui en ont 2 et d'autres 60. Donc, on s'en fout royalement de ce chiffre de 11.
Ok, bon.
60, ça rentre dans cette pièce.
Oui.
Comme dirait Simon, couché, ça
ouais,
rentre.
Empilé.
C'est
ça, c'est ce que je voulais dire.
Des cadavres,
c'est empilé, bien sûr. Dans des sacs mortuaires. Bon, voilà.
Ok. Donc là, on va parler de la libido parce que c'est revenu énormément cette question à Gilbert et Selim. Ça, c'est. Enfin, j'en ai eu, je sais pas, peut-être une. J'irai une soixantaine sur le sujet. Mmh. Donc comment alors je vais un peu toutes les poser et puis bon après votre réponse elle va nourrir cette question un peu à rallonge. Comment réguler le trop de libido? Comment gérer la différence de libido après 15 ans de mariage? Comment donner à ma partenaire plus envie de faire l'amour avec moi? Et après j'en ai pas mal. Peut-on avoir envie de coucher avec d'autres femmes tout en étant fou amoureux de sa copine? Ou est-ce normal de ne pas désirer ma ou mon partenaire alors que je là le trouve séduisante, belle et que je l'aime.
On retrouve souvent beaucoup de questions avec une libido qui est plus élevée chez
Exactement.
Le mec que chez la femme.
Exactement.
Et avant d'y répondre, je voudrais préciser un point. On parle tellement peu des hommes qui ont moins de libido que leurs femmes que ces mecs-là le vivent super
Ils
mal.
Ils le vivent très très mal.
Et c'est important. Voilà, je suis content qu'on soit d'accord là-dessus. C'est vachement important qu'ils sachent que ça existe. Ils le vivent hyper mal. Un mec qui a plus de libido que sa femme, socialement, ça passe super bien.
Mais j'ai eu, dans les interviews que j'ai eues dans The Verge, des hommes qui me parlaient de ça,
oui.
Qui ont eu des moments avec des partenaires.
Des pertes de libido.
Oui,
avoir,
voilà, ouais. Notamment des pertes de libido sur des histoires, etc. Alors, effectivement, ils sont un peu dépossédés de ça. Et souvent se disent que derrière, il y a un trouble oui. Dépressif ou psy. Donc, du coup, ça a souvent amené à une fin de l'histoire.
Mais oui, et ça remet vraiment la personne en question.
La personne entière.
On parle tellement de l'inverse, c'est-à-dire des mecs qui ont plus souvent envie que leurs femmes, mm-hmm. que quand c'est l'inverse, les mecs le vivent super mal. Et même les femmes, elles se disent forcément, c'est que c'est qu'il n'a pas
ouais.
envie de moi, il y a un problème. Mais ça existe. Par exemple, moi, j'ai plein de patients qui me disent j'ai jamais été porté sur le sexe. Et ce n'est pas quelque chose qui les perturbe. Sauf que socialement, c'est super difficile à dire pour un mec. C'est plus rare que les mecs qui ont une libido plus élevée. Mais ça existe et c'est pas forcément le signe d'une anomalie.
On peut être en très bonne
quelconque.
Santé et pas être très
voilà.
porté sur le sexe.
D'ailleurs, la toute première question, c'est comment réguler la question de trop de sexe. La plus grosse difficulté dans ces cas-là, c'est de savoir est-ce qu'il y en a un qui a trop de libido ou c'est l'autre qui en a pas assez.
On est toujours dans cette recherche de qui est le coupable, alors que là, on est entre nous, on va se dire, ok, ben moi je préfère le sport, j'aime faire plus de sport que vous, ou moi j'adore lire, je peux lire 10 heures par semaine et c'est très cool, c'est très admis. Dans un couple, si tu dis « moi j'ai ce niveau d'énergie sexuelle très très haut depuis toujours et que l'autre est peut-être un peu plus bas », on se dit « ah là il y a un problème ». Alors que non, vous allez pas me dire que j'ai un problème si j'adore lire ou aller au cinéma 3 fois par semaine. C'est une activité pour laquelle on s'attend à ce que il faudrait que mon désir soit égal au tien. Et ça, c'est très très compliqué parce que il faut que le désir soit égal parce que sinon l'un des deux se sent rejeté, l'un des deux se sent anormal et ça devient compliqué dans ce cas-là pour l'un, pour l'autre, généralement pour les deux.
Et donc, du coup, c'est...
Alors, comment distinguer une situation quand même particulière ou précise ? Comment distinguer j'ai une libido forte ou j'ai un problème de libido forte ? À quel moment ça devient un problème ? À quel moment c'est quelque chose qui mérite quand même de s'y attarder et de se dire qu'est-ce qui se passe ? C'est comme ça qu'on fait la distinction dans le domaine de la médecine sexuelle entre hyperlibido et dépendance sexuelle ou besoin sexuel. Alors justement, c'est quand l'envie devient un besoin. C'est quoi la différence entre envie et besoin ? Si j'ai envie de manger un truc et vous me dites pas maintenant, je vais être frustré, mais ça va quoi, ça va aller. Par contre, si j'en ai besoin et que vous me dites non, je vais être mal. Et je vais réagir mal, je risque d'être agacé, je risque même de réagir de façon un peu agressive, etc. C'est du genre, je suis là en train de papoter avec vous, mais il faut absolument, j'ai besoin absolument que j'aille fumer ma clope. Ou tout d'un coup, je commence à penser à des choses d'ordre sexuel et je ne peux pas calmer ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qui m'échappe. Par contre, qu'une envie me traverse l'esprit et que je me dise non, pas pendant le podcast, on attend un peu puis on verra après. A priori, c'est une libido forte, mais qui est pas anormale.
Je comprends.
Et donc, c'est comme ça qu'on aide parce que il y a beaucoup de femmes qui disent, mais il a tellement plus souvent envie que moi que je me demande s'il a pas une dépendance sexuelle ou s'il est pas addict sexuel. Ça a été à la mode à un moment, on en parlait beaucoup.
Ah, le film Shame.
Le film Shame, bien sûr. Il y a eu quelques stars qui ont été condamnés pour addiction sexuelle, etc. Donc, en fait, comment savoir ? C'est simplement si je dis non à mon partenaire ou ma partenaire ou c'est pas le moment pour moi et que les réactions sont assez vives, assez violentes, c'est qu'il y a un problème. Par contre, si c'est de la frustration simple, voilà. Et donc, si je disais tout à l'heure, la difficulté, c'est de savoir est-ce que c'est moi qui n'ai pas souvent suffisamment envie ou est-ce que c'est l'autre qui a trop envie ?
Est-ce qu'il y a justement des conseils qu'on peut donner ? Parce qu'effectivement, on va partir du postulat que c'est une hyper-libido avec quelqu'un qui a un peu moins de libido. Donc du coup, c'est difficile de trouver le tempo dans ce couple hétérosexuel, parce qu'on parle encore de couple hétéro, mais ça peut être aussi un couple homo. Du coup, comment on peut amener l'autre à rentrer un peu plus dans sa danse et soi-même un petit peu baisser sa libido ? Parce que c'est
Toute l'astuce, c'est de ne pas amener l'autre à rentrer dans notre monde. Mais toute l'astuce, c'est de ne pas demander ou faire de sorte à que l'autre rentre dans notre libido, mais c'est d'aller dans sa libido. Par exemple, un truc tout simple, apprendre que chez l'homme, parce que c'est souvent un décalage entre homme et femme, chez l'homme, ce qui stimule la libido, le stimuli visuel marche très bien. Le fait de voir sa femme déshabillée, en train de prendre sa douche, etc. Le fait de voir des choses d'ordre sexuel, c'est un très bon stimuli. D'ailleurs, ça explique... Quand on fait des études où on surveille le cerveau, comment il réagit, puis on passe des images comme ça devant les yeux, les images sexuelles réveillent le désir, l'excitation chez l'homme.
D'accord, il y a
chez
une partie du cerveau qui s'allume.
Elle réagit. Alors, chez la femme, ça réagit un tout petit peu, puis hop, ça redescend rapidement. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi il y a plus de boîtes de striptease pour mecs que pour femmes.
Oui.
Parce que les femmes, je pense qu'elles s'ennuieraient un peu à aller voir des mecs se déshabiller. J'imagine mal une femme aller se faire un trip avec une bière à regarder un mec se déshabiller.
Je dis pourquoi pas.
Voilà. Ça peut être. En fait, c'est souvent pour s'amuser.
Oui.
Avec copines, etc. Mais c'est pas pour s'exciter forcément. D'accord. En tout cas, c'est moins fréquent. Et donc, les mecs imaginent que le fait de montrer des choses d'ordre sexuel, c'est ce qui va donner envie à l'autre. Et les mecs, ils nous disent, dès que je la vois nue, etc., j'ai envie d'elle. Je me mets devant elle, elle réagit pas. C'est qu'elle me désire pas. J'ai dit, non, mon pote, tu peux te balader à poil toute la journée. Je sais pas si vous avez, je suis sûr que tu connais ça mieux que moi encore, Céline. Imaginons qu'il y a un mec et une nana qui se rencontrent pour la première fois. Et la nana veut que le mec finisse la nuit dans son lit cette nuit-là. Elle va jouer sur des choses physiques. Elle va déboutonner un peu la chemise, relever un peu la jupe, etc. Et ça marche. Vous verrez jamais un mec déboutonner la chemise et relever le froc. Il montrait ses mollets. instinctivement,
j'imagine le mec.
Instinctivement, il sait que ça va pas marcher. Il va plutôt jouer la tchatche, il va plutôt jouer le fait de la mettre dans les bonnes conditions, etc. Le jeu de séduction
Ouais, bien sûr, traditionnel. Et c'est vrai qu'en fait, cette incompréhension du désir de l'autre, elle est folle. Aujourd'hui, on le voit d'autant plus avec toutes les questions sur les sextos. Combien de fois on a des jeunes ou même des plus vieux, vu on a des histoires de harcèlement en ce moment, où l'homme se dit, ouais, moi, je suis excité visuellement, donc bien sûr, je vais faire des photos de mon sexe que je vais lui envoyer, oui. Et elle va réagir aussi. Non,
et
ça marche pas
du tout.
Ça marche pas comme ça.
Quoi?
Ça marche pas comme ça. Ça peut marcher après une petite conversation où la femme est déjà mise en condition et là, ouais, peut-être
et
qu'elle va.
Et il y a le consentement.
Exactement.
Je suis ok que tu m'envoies tes parties intimes.
Mais on va pas shooter ça comme ça. Et il y a une vraie incompréhension du mécanisme du désir chez la femme qui prend plus de temps, qui est plus spirituel, plus mental, souvent. Bien sûr, de temps à autre, physique, il existe aussi, hein.
Oui,
mais.
Oui, il y a des femmes qui peuvent être excitées par des stimuli visuels. Fin...
Pour l'homme, le physique peut suffire.
D'accord.
Sur la femme, c'est une base.
Ok, je comprends.
C'est quelque chose qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisant pour la suite. Donc, quand on écoute ça, on dit au mec, comment tu as fait pour la séduire, pour qu'elle couche avec toi la première fois? C'est ça qu'il faudrait faire, on continue. Ah ouais, mais il faut que je l'amène à Venise à chaque fois que j'ai envie de faire l'amour, ça va être un peu compliqué. Non, c'est pas forcément aller jusqu'à ce point-là. En fait, on oublie que c'est le mécanisme de séduction. Et d'ailleurs, je rajouterais une chose. Ça, ce n'est vrai que quand le mec, lui, a envie et voudrait initier le rapport sexuel. Et on dit souvent, oui, les femmes ont plus souvent besoin de préliminaires que les mecs. C'est tout simplement parce que c'est les mecs qui sont à l'initiative. Donc forcément, il y a besoin d'un petit sas entre ce qu'elle était en train de penser. Mais si la femme, elle a déjà envie, il n'y a pas besoin de toute cette histoire-là, de tous ces préliminaires. Donc, la question, c'est comment je peux faire pour donner envie à l'autre. La première chose, c'est de comprendre comment fonctionne le désir. Donc, ça ne sera pas en 2 minutes que ça va marcher. Il faudrait peut-être que je prenne du temps. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est que chez la femme, dans une vie de couple, hein, je ne parle pas des moments de rencontre qui sont différents. Dans une vie de couple, le fait de stimuler le désir de la femme, c'est un boulot H24. Mmh. Si on s'est disputé à 8h du matin, faut pas espérer qu'à 16h, c'est le fait de se balader à poil devant, ça va donner envie. Et c'est un peu plus subtil que ça. Voilà.
Un peu plus, oui.
Et donc, ça fait partie, quand on explique au mec comment donner envie, ben, en fait, c'est un changement de dogme même de la vie de couple. C'est pas on vit notre vie de couple. Et puis, le moment, une fois, on m'a posé la question, comment faire pour donner envie, pour avoir envie? Mmh. En tant que femme, comment faire pour avoir envie une fois qu'on arrive sous la couette? Et j'ai répondu, si on attend ce moment-là pour avoir envie, c'est trop tard.
C'est déjà trop tard, bien sûr.
Toute la journée, pendant des heures et des heures que ça se travaille.
Mais j'avais eu un invité, Pierre, qui est homosexuel et qui disait ça, que ce qui était facile dans les rapports entre hommes, c'est qu'ils pouvaient se prendre la tête à 10h du mat, se faire la gueule 1h et baiser 2h après.
Parce que le stimuli visuel suffit.
Exactement. C'est et donc du coup, pour lui, voilà, qui comparait avec ses amis en couple hétéro, il se rendait compte que c'était quand même plus simple entre hommes parce que une nana, effectivement,
la libido
tendance...
féminine fonctionne de façon un peu différente. D'ailleurs, je parlais de ces analyses en IRM fonctionnelle où on regardait les zones du cerveau qui s'allument ou pas. Chez la femme, ce qui pouvait allumer ces zones-là, c'était pas tellement des images fixes sexuelles, c'était plutôt des circonstances et des comportements d'ordre sexuel. D'ailleurs, il y a un truc qui ne trompe pas. Regardez les films porno faits par des mecs et les films porno réalisés par des femmes. Et vous verrez que les scénarios
sont
complètement différents.
Bien sûr, bien sûr. Et puis, les angles, ce qu'on montre, comment on l'amène,
exactement.
Etc. Oui, c'est très différent.
Et donc, la meilleure façon de donner envie à l'autre, c'est de connaître comment l'envie de l'autre fonctionne. Et puis, il y a aussi autre chose qui est dans les vies de couple, là, vraiment dans la vie de couple au quotidien, où on sait qu'il y a des priorités, il y a la famille, il y a les enfants, il y a le boulot, etc. Il faut savoir qu'un minimum pour la libido, en particulier féminine, c'est pas trop fatigué, pas trop contrarié, un peu de temps devant soi et pas de problème dans la relation. Et regardez dans une vie de couple qui court dans tous les sens, avec des enfants par exemple, combien de fois on n'est pas fatigué, pas contrarié, avec du temps devant soi, et il n'y a pas de conflit dans la relation, et il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que c'est surtout là-dessus qu'on peut jouer si on veut donner la libido à l'autre. Combien de couples disent ça va beaucoup mieux en vacances?
Oui,
bien sûr.
Et là, on se rend compte qu'ils n'ont pas de problème, en fait. C'est le mode de vie qui leur pose problème, mais qu'il n'y a pas de problème de libido, en réalité.
Ok.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la fragilité du désir féminin par rapport au masculin. Nous, on voit, hop, on peut être excité rapidement. Et c'est pour ça qu'on recommande parfois aux lecteurs qui sont en couple et qui n'ont pas envie de perdre vraiment, c'est comment rallumer la flamme. La question, c'est souvent ça. Moi, je leur dis, booker des créneaux. Vraiment, essayez de vous booker un créneau de toute une soirée avec elle, un bon cadre, vous l'aider. Là, il y a une question qui arrive bientôt, je crois, mais c'est faites le ménage. Vraiment, hein, toutes les études disent les hommes qui aident au ménage, aux tâches ménagères, on va parler peut-être de la charge mentale.
Les hommes ne
hein.
doivent pas aider à
oui,
faire le ménage.
Oui, faire leur part
les
du
faire
ménage.
Le ménage. C'est comme, moi, j'adore les gens qui disent il est sympa ton mec, il t'aide avec les enfants. En fait, on l'a eu à deux, cet enfant. Donc, non, en fait, on n'aide pas, on
mais
fait.
Par rapport à ça, donc, c'est.
Mais c'est bien, cette histoire de créneau, ça ressemble à ce qu'on, au rendez-vous amoureux.
Ouais. C'est ça.
Mais avant. Vous faisiez pas l'amour tout le temps. Vous faisiez l'amour quand vous aviez un rendez-vous amoureux. Et le reste du temps, vous n'étiez pas ensemble, vous ne voyez pas. Et ben, vous faites pareil, vous prenez des rendez-vous amoureux de temps en temps. C'est cette histoire de trou dans l'agenda.
Mais
où...
qui n'est pas forcément un rendez-vous, on fait l'amour. Ça peut être un
non,
rendez-vous de...
voilà, d'intimité. Appelons-le rendez-vous d'accord. d'intimité, se passera ce qui se passe. Mais mentalement, ça permet de te mettre en condition où la part est clean. Peut-être que tu as cuisiné pour elle, qu'elle elle a fait un effort ce jour-là pour s'habiller les talons, machin, parce qu'elle sait qu'elle t'excite
hein.
visuellement. Ah, les talons, juste les talons, pas de robe, pas de maquillage.
J'ai interviewé un garçon, genre il y a très peu de temps. Lui, c'est les Stan Smith. Il a un vrai truc avec les Stan Smith. Une meuf en basket, ça le rend dingue. Ouais.
D'accord. Comme quoi, on est
comme quoi vous êtes vraiment.
Il y a des fétichismes particuliers dans
ce sens. Ça aurait pu être des crocs.
Alors là, je pense qu'il faut consulter, monsieur.
Une petite astuce sur comment donner envie. J'ai remarqué que quand les femmes sentent que le mec vient vers elles et qu'il est en train d'être sympa, en train d'essayer de dragouiller, de séduire, etc. Et elles sentent que c'est que pour le sexe, c'est mort. Et toute la subtilité, c'est de pouvoir aller vers quelqu'un en lui donnant la sensation qu'on a envie de lui ou d'elle et pas du sexe.
Bien sûr.
C'est exactement comme si je viens te dire, viens, j'ai super envie d'aller à Prague. Il faut absolument que j'aille visiter Prague et je veux que tu viennes avec moi. Allez, s'il te plaît, viens avec moi. C'est pas pareil que de dire, j'aimerais beaucoup faire un voyage avec toi. Et comme j'aime Prague, ça serait chouette qu'on aille tous les deux à Prague.
Bien sûr.
C'est pas la même façon.
C'est vraiment la base là-dessus sur.
Oui, je pense que toi, Céline, t'as eu beaucoup ça. Apprendre à faire le distinguo, à pas être que branché sur.
C'est
le
ça. Tu as des approches dans la séduction qui sont très bourrines. Vraiment, on y va à fond, on déroule. Il faut être soi-même, il faut dire ce qu'on veut. Ouais, dis-lui que tu veux coucher avec elle. Ça, c'est pas notre approche. Nous, on a un truc, j'ai mis en place une méthode qui s'appelle la méthode RDV. Le R de rassurer. Le D de divertir et le V de valoriser.
Ah, je vais pas que ça violer. Ce... hyper peur.
La méthode du rendez-vous.
Quelle idée. Et donc, on est vraiment sur valoriser. On parlait du voyage à Prague. Mm-hmm. Non, c'est pas le voyage à Prague. C'est partager ce moment avec toi. Et si c'est à Prague, c'est tant mieux. C'est si la femme, elle sent que on veut juste du sexe, qu'elle n'est pas unique, qu'elle n'est pas mise en valeur, on oublie.
Donc rassurer.
Divertir
et
valoriser. Parce que c'est le fonctionnement du cerveau, en fait. Le divertir, c'est la nouveauté. Mm-hmm. Un rendez-vous, quand c'est un rendez-vous, une rencontre, quand on s'ennuie, c'est pas possible. Le cerveau, il s'éteint directement. En gros, il s'éteint sous trois conditions. Quand le message est trop long, quand le message est trop compliqué, et le troisième, retrouver ça. Là, je l'ai plus. Trop long, trop complexe.
Pas intéressant.
Et ouais, voilà, non, mais et c'est exactement ça, menaçant. Ouais, trop long, trop complexe, menaçant. D'accord? Là, le cerveau, hop là, c'est pas pour moi, cette histoire. Donc, on est plus dans le divertissement, dans la nouveauté. On vous dit, le vieux proverbe qu'utilisaient nos anciens, femme qui rit, à moitié dans son lit, c'est le divertissement. On est là pour procurer des bonnes émotions et après pour valoriser l'autre.
Ok, bon. Alors, sur la libido, ah oui, c'était ça. Est-ce qu'on peut avoir envie de coucher avec d'autres femmes alors qu'on est amoureux ?
Ah oui, en étant amoureux. Alors, c'est une question avec beaucoup de
subtilité. Mais dans l'autre sens aussi, hein, est-ce qu'on peut avoir envie de coucher avec d'autres hommes quand on est amoureux ?
En fait, je pense que quand on est amoureux, c'est...
Déjà, ça veut dire quoi être amoureux ?
Justement, j'allais faire le distinguo entre être amoureux et aimer quelqu'un. On peut aimer quelqu'un et avoir envie de coucher avec d'autres. Par contre, si on est amoureux de quelqu'un, c'est beaucoup plus rare d'avoir envie de coucher avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est quoi le distinguo entre aimer
donc, l'état
et être amoureux,
et d'accord.
On peut aimer quelqu'un pour ses qualités. Et on peut vouloir rester avec quelqu'un pour ses qualités. Être amoureux, c'est un sentiment qui se maîtrise pas. C'est je l'ai dans les tripes.
Mm-hmm. C'est vraiment la passion, c'est le feu.
C'est le côté passionnel. Quand on a vraiment un sentiment passionnel amoureux pour l'autre, il y a une attirance qui s'est faite pour des raisons qu'on est... Amoureux, c'est quand on vous demande pourquoi tu l'aimes et on dit je sais pas. Je sais pas, je le sens. Ça, c'est le côté amoureux. Par contre, quand on commence à dire, d'ailleurs, vous demandez à des femmes, qu'est-ce que vous aimez chez votre partenaire? Il est gentil, il est agréable, il est fiable, il est solide. Oui, mais ça excite personne.
Non.
Et malheureusement, trop, et malheureusement, on va choisir des mecs pour ça.
Bah, parce que ça, c'est un truc.
C'est le côté bon père de famille. Oui, c'est ça. Arrive un moment où ça peut être et un choix de. Bien sûr.
On peut l'aimer très fort. Et donc là, oui, on peut aimer quelqu'un comme ça. Et de temps en temps, avoir envie d'une autre personne, parce qu'il y a de la place pour ce côté passionnel.
Donc c'est très précieux.
Par contre,
en
quand
fait,
on est passionnel.
D'aimer son amoureux, c'est quand même très précieux. Oui. Et que ça dure longtemps.
Oui. Et il y a beaucoup de couples. Moi, je trouve qu'on devrait se mettre en couple après la soixantaine, une fois qu'on a acquis une bonne expérience.
OK.
Parce qu'à 25-30 ans, on se met en couple sur ce qu'on a dit qu'on doit faire. Mm. Pas sur... Et on nous dit quoi ? Trouve-toi quelqu'un de bien.
Marie-toi.
Trouve-toi quelqu'un de sympa. Mm-hmm. Trouve-toi quelqu'un qui s'occupe de toi, qui est bon père de famille ou bonne mère de famille, etc. Jamais, même moi, je crois que jamais je dirais à des enfants, marie-toi avec quelqu'un qui t'excite.
Ouais.
C'est un message qui est un peu difficile à dire. Donc
oui,
forcément.
C'est vrai que c'est un peu étrange.
C'est que ça dure pas assez longtemps.
J'espère que tu le fais avec tes enfants.
Ça commence tout doucement. Mais bon.
C'est que c'est trop risqué, ça dure pas assez longtemps. On nous apprend la passion, ok, mais c'est trop volatile. Mmh. Ça ne dure qu'un temps. Mmh. Et justement, de nombreuses personnes... Surtout chez les femmes, on voit comment choisir le bon. Je suis dans un cycle d'échecs, je choisis toujours le bad boy, le partenaire qui m'excite, mais à la fin, ça s'arrête toujours, ça finit toujours. Comment trouver le bon ? C'est deux choses en France, potentiellement, peut-être ailleurs aussi, mais passion, couple, passion, vie de famille, passion, long terme, c'est vraiment opposé.
Pour bien comprendre, c'est difficilement compatible ?
Non, c'est possible.
Ah, c'est possible.
Mais malheureusement, beaucoup de personnes pensent qu'ils doivent sortir s'amuser avec les bad boys, comme tu disais, et se marier avec le bon boy, quoi. Ben non, on peut très bien avoir quelque chose qui serait mixte. Je trouve que les couples où ça se passe le mieux, des gens que j'ai vus qui sont ensemble depuis 30, 40, 50 ans même, c'est ceux qui ont su non pas être les deux en même temps, mais être l'un ou l'autre à chaque moment.
À des moments de vie différents.
Par exemple, pendant quelques mois, pendant un an, deux ans, ils étaient le couple solide qui s'occupait des enfants. Et puis à un moment, ils se sont dit non, c'est pas possible, on est en train d'étouffer, de s'éteindre. Et ils réveillent à ce moment-là le côté plus passionnel, quitte à pas être très efficace en tant que bon père de famille, bonne mère de famille. Et puis de nouveau revenir. Les enfants vont très bien si leurs parents sont épanouis.
Ah, ça, je suis persuadée, ouais.
Et c'est une fausse idée de faire croire que il faut que le parent donne tout à son enfant, quitte à être déprimé soi-même. Non, l'enfant le voit, mais pourquoi t'es triste, maman ? Pourquoi t'es triste, papa ?
Beaucoup de femmes, enfin, je dis femmes parce que moi, mes amis, eux et copines, on s'en parle davantage. J'ai moins ces conversations-là avec mes potes qui sont pères. Mais c'est vrai que les femmes ont tendance à vraiment s'oublier dans la maternité, surtout les 3-4 premières années des enfants. Et du coup, ouais, effectivement, ça, elles ne réveillent plus aucune libido, plus aucune envie. Et souvent, elles disent que c'est parce que la grossesse, parce que la maternité. Et en fait, moi aussi, je pense que non. Je pense qu'il y a un vrai oubli d'être de la femme que nous sommes, enfin que nous, oui, ou que nous sommes, dans la maternité. Et ça, c'est hyper dangereux.
Il faut pas oublier que la cellule souche, c'est le couple, en fait. C'est les parents, c'est pas les enfants. Donc, en effet, moi je l'avais senti dans ma vie. Tu le regardes autour de toi. Si tes parents vont bien, sont amoureux et ça se voit, même s'ils s'occupent moins de toi, enfin, tu seras... Toi, je pense que une éducation affective qui est bien meilleure que...
Exactement. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais moi, je suis persuadé que nos enfants, on doit pas les aider, on doit les aimer.
Ah oui.
N'importe qui peut les aider. Nous, on est là pour les aimer. Et pour aimer, il faut être pas aimé matériellement. L'enfant s'en fout de savoir qui lui a fait... Qui de nous se souvient s'il a porté des habits qui étaient propres ou sales ou s'il a mangé froid ou chaud? On s'en fout. On se souvient surtout des bons moments qu'on a passés ou des mauvais moments qu'on a passés avec les parents.
Ah, ça, c'est sûr. OK, donc on a fait un tour sur la libido pas mal. Ah oui, pas mal de questions aussi sur l'infidélité et le couple libre. La différence, et est-ce que c'est la solution, le couple libre ? Et alors moi, j'adore...
Solution à quoi ?
Bah, justement, à la libido.
À la crise actuelle.
Ouais, à la libido. Est-ce que c'est pas le vrai bon modèle de créer une vie stable et heureuse avec un partenaire de vie ? Et moi, j'aime beaucoup la question qui est, qu'est-ce que tromper ? Est-ce que ça commence
que
à penser...
Tromper,
voilà. Est-ce que c'est penser à une ou un autre ? Est-ce que c'est sexter ? Est-ce que c'est embrasser ? Est-ce que c'est coucher ? Est-ce que sucer, c'est tromper ? Oui, ça, c'est Anne qui me l'a posé. Je fais un clin d'œil, d'ailleurs.
Une question. Vous avez remarqué que quand quelqu'un est infidèle ou en couple libre, on lui demande, mais pourquoi, comment et tout ? On ne demande jamais, on ne pose jamais la question, mais pourquoi tu es fidèle ?
Ouais.
Parce qu'on a l'impression que c'est la normalité.
Oui, dans notre société,
J'ai dit l'impression.
Oui, l'impression, bien sûr.
Mais on n'en sait rien.
En Afrique, la polygamie, c'est hyper ok. Il y a des
sociétés anciennes, des sociétés dans le passé, au moment des Grecs, des Romains, des Égyptiens. C'était
mais
notre vision.
De façon plus moderne, la polygamie, bon, c'est souvent l'homme qui a plusieurs femmes, mais je sais que en Orient, il y a des sociétés matriarcales. Exactement, il y a la polyandrie.
La question est de savoir déjà pourquoi on veut être fidèle.
Ben oui, c'est ça.
Et la réponse, elle n'est pas si simple que ça. Et poser la question à des gens fidèles, pourquoi tu es fidèle ? La majorité vont dire bah, c'est parce que c'est comme ça, c'est normal. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont fidèles. En réalité, le couple, quand on réfléchit bien, et vous verrez, il y a une émission qui va passer, qu'on a tournée, on a été même faire un repérage aux eaux de Beauval, où on a regardé comment ça se passe dans le monde animal. Vous avez des races animales où, une fois que la progéniture a grandi, les deux mâles et femelles qui ont fait les petits n'ont plus de relations, mais ils n'ont plus d'autres relations avec d'autres mâles, d'autres femelles. Vous avez des races animales où, une fois qu'ils ont fait des petits, ils peuvent continuer à se reproduire avec d'autres mâles, d'autres femelles. Vous avez par exemple les flamants roses que tout le monde trouve très romantiques, super géniales et sympas et tout. Les flamants roses, une fois que la progéniture a grandi, mâles et femelles se séparent, ne se revoient plus jamais de leur vie. Vous savez que chez les animaux, tout ça, c'est programmé génétiquement.
Bien sûr. Il n'y a pas de haut et de bas.
Par exemple, chez les petits pingouins, ils vont faire des enfants, ils vont se séparer, et puis quand c'est le moment de refaire de nouveau des petits, c'est le même couple qui se reforme, ouais. C'est pas avec un autre mâle. Donc chaque animal a sa propre...
Chez les pingouins, il y a même des couples homosexuels, oui. Qui sont toute leur vie ensemble.
Et on a cherché à savoir, génétiquement,
qu'est-ce qu'il fait, ouais.
Qu'est-ce qu'il est programmé et pas qu'est-ce que socialement.
Attention, révélation.
Teasing.
La révélation.
Déception, c'était un beau bordel, on n'arrive pas à savoir. C'est-à-dire, les généticiens n'arrivent pas à se mettre d'accord alors qu'ils arrivent à le faire chez les animaux.
C'est pas aussi clair chez nous.
Moi, mon impression, c'est que l'être humain n'est pas prévu pour être monogame, n'est pas prévu pour être polygame, mais une sorte de serial monogame.
Toi, t'en penses
quoi ? Une impression un peu de quelque chose de ce genre-là, et que plus on allonge la durée de vie, plus on s'en rend compte.
Mais ce serait quoi du coup ? Ce serait des relations de 10 ans successives.
C'est ça, c'est ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui. Tu parlais de l'allongement de la vie. Jusqu'en 1815, la fin des guerres napoléoniennes, espérance de vie 45 ans. Aujourd'hui, t'imagines qu'on est quasiment
pour toujours,
à deux fois.
Facile, hein.
Voilà, ouais, c'était simple.
Enfin, tu commençais tôt en même temps. T'étais violée vers quoi ? 11-12 ans quand t'étais gamine. Oh, ça commence tôt.
Cours d'histoire. Voilà.
Donc aujourd'hui, tu vois, l'allongement de la durée de vie, la facilité aussi du voyage qui fait que tu rencontres beaucoup plus
Mais
de
oui.
monde. Ta vie professionnelle où tu bouges beaucoup plus,
les
sites de rencontres,
qui ont d'argent, voilà. Qui sont indépendantes, ça a beaucoup
tu
changé,
crées des conditions de société qui sont complètement différentes, donc beaucoup plus de stimuli, et on arrive à une situation où on se dit bon ben céréale monogamie, 10 ans avec l'une, peut-être 20 ans avoir des enfants avec l'autre, et c'est pour ça que le marché aujourd'hui des seniors sur les sites de rencontres est complètement fou, parce que le senior il a encore la patate, il a 60 ans. Allez, jeune senior, 60
et on
ans.
On voit beaucoup sur Charles.co, beaucoup d'hommes de 55 ans et plus qui, par exemple, nous contactent pour une difficulté érectile. Depuis quand le problème est apparu ? Et ils mettent depuis le début de ma relation récente. Et il y a beaucoup qui sont en relation depuis 6 mois, 1 an, 2 ans.
Depuis que les enfants ont quitté
séparation,
le foyer.
Séparation, voilà, exactement.
Et puis même sur l'activité sexuelle, on est toujours surpris. Nous, on a eu beaucoup de personnes de 80 ans sur la plateforme qui venaient, qui disaient « Bon, bah voilà, j'ai un peu plus de mal avec mon érection aujourd'hui, mais je suis toujours super actif. J'ai potentiellement une femme plus jeune ou pas, d'ailleurs. » Mais donc les gens continuent à être sexuellement actifs super tard aussi. Donc,
On allonge la durée de vie et l'état de santé qui continue à être bon. D'ailleurs, vous connaissez peut-être cette expression, ce que c'est un sexagénaire ? C'est quelqu'un qui a commencé l'âge du sexe. Okay. C'est là où on arrive dans les meilleurs...
C'est les expressions de Gilbert, attention.
Et d'ailleurs, pour revenir à cette histoire d'infidélité, etc., je ne sais plus quel auteur l'a écrite cette phrase-là, elle n'est pas de moi. Si on ne disait pas à l'homme avec un grand H, si on ne disait pas à l'homme que le couple existe, il ne se mettrait peut-être pas spontanément en couple. Et que le couple est fait plus pour sécurité, s'occuper des enfants, s'occuper l'un de l'autre, etc. Donc c'est pas fait pour le côté purement amoureux, ouais, en
amoureux
fait.
Bien sûr, c'est un contrat social.
Donc, l'infidélité, quand est-ce qu'elle commence ? Je vais encore dire une phrase, hein, désolé Simon, vous connaissez, Tim Seed dit l'infidélité commence quand l'autre le sait.
Oui, c'est... Mais est-ce que...
Mais l'infidélité commence, chacun il a sa propre,
d'accord,
sa propre valeur
propre
de
limite,
ça.
Ouais.
Voilà.
C'est que la vraie question, c'est quand est-ce que tu es infidèle en fait ? C'est quoi ? C'est un message ? C'est à regarder ?
C'est une idée ?
Carrément
parfois,
y aller,
simplement,
c'est ça qui est compliqué.
Ouais.
Et ça dépend de à quel moment chacun... tu te fais gauler, effectivement. Oui. Hein, ça, c'est vrai. Ce qui ne se sait pas n'existe pas. Après, tu t'arranges avec ta conscience. Tu vois dans le couple, il y a un contrat. Il y a un contrat qui est défini dans le couple. Après,
balance.
À toi de voir. À toi de voir si tu décides de briser ce contrat et potentiellement perdre tout ce qu'il y avait au sein de ce contrat. La sécurité, l'intimité, les enfants, toutes ces choses-là. C'est un contrat. Il y a des couples qui sont plus flexibles que d'autres, qui le verbalisent plus, d'autres qui n'ont pas besoin d'en parler. On sait. J'ai des amis femmes qui s'engagent en couple avec des hommes qui sont très clairement infidèles. Elles savent qu'à un moment, quand il sort avec ses potes, voilà, on le sait, elles l'acceptent. Elles font peut-être de même de l'autre côté et peut-être qu'on le sait pas. Chacun trouve son équilibre.
Ouais, c'est toujours ça. Moi, j'ai plein de copines filles qui me disent toujours « je veux juste pas savoir, en fait ». Par exemple, si toi, tu sais quelque chose, t'as le choix de me le dire ou de pas me le dire, tu me le dis juste pas. Donc, en fait, l'infidélité, elle commence juste au moment où ça devient public, quoi.
Ouais, et tu mets des capotes, évidemment.
Et donc, est-ce que le couple libre est la solution ? C'est la solution pour les gens qui ne cherchent pas une relation sécure. Pour ceux qui cherchent une relation de sécurité, non, c'est pas la solution.
Et pour... Bah... C'est pas possible pour toi qu'il y ait un couple stable et qui est dans la sécurité, qui a tout verrouillé, mais qui a une liberté sexuelle autour.
Ceux qui cherchent une relation sécure, c'est des gens qui ont une peur très importante de perdre l'autre. Et donc le fait de se dire, mais il rencontre d'autres personnes, ben, y a le risque qu'il rencontre quelqu'un qui pourrait changer les plans initiaux. Et donc les personnes qui fonctionnent de façon très sécure, les couples libres en général, c'est des gens qui ont suffisamment confiance en eux. Pas confiance en l'autre.
Ouais.
Ils ont suffisamment confiance en eux. Ils disent, bon, bah, au pire des cas, ça part en vrille, bah, je gérerai. Alors que d'autres personnes disent, non, non, si ça part en vrille, j'arriverai pas à gérer, je serai effondré.
Il y a plein de gens qui sont incapables de vivre seuls, tu le vois. Hein,
par exemple,
ils ont une rupture directe, ils sont avec quelqu'un d'autre, ils prennent jamais de temps. Donc je pense que ça participe de ça.
Et donc comment tu expliques justement, comment vous expliquez, pardon, le fait qu'on peut être en couple très heureux et avoir envie de quelqu'un d'autre?
Moi, pour moi, il y a plusieurs situations. Il y en a pour qui c'est un sport. Hein. Je me mets en couple, mais en me mettant en couple, je n'ai pas en même temps l'idée que je vais me priver d'autres relations. C'est-à-dire, c'est la conception même, le contrat initial dont on parlait tout à l'heure, la conception même du
bourgeois
qui est pour lui comme ça. Voilà. Il y en a d'autres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai choisi cette femme parce que c'est quelqu'un de bien, parce qu'elle va être une bonne maman d'après moi, parce qu'elle m'apaise. Parce qu'elle m'apporte quelque chose d'affectif dont j'ai besoin, etc. Mais pas forcément pour des raisons alchimiques. Donc le sexe fonctionne, mais j'ai une alchimie qui n'est pas complètement comblée et qui peut à ce moment-là être comblée dans d'autres relations.
Ça peut être dans l'autre sens.
Exactement.
Ok, d'accord. Bon.
C'est même, pour info, sur une centaine de femmes qui consultent pour « j'ai pas de libido », la moitié des femmes... C'est plutôt des femmes qui sont dans des couples comme ce que je viens de décrire. C'est-à-dire, elles ont choisi un mec pour des valeurs qui ne sont pas des valeurs excitantes, mais des valeurs de construction. Et une fois que les enfants ont grandi, elles se disent, bon, bah, maintenant qu'on a construit, bah, c'est d'autres valeurs que je cherche, c'est d'autres qualités. Et là, elles sont en extrême difficulté parce qu'elles n'ont pas forcément envie de tout exploser. Elles n'ont pas forcément envie de perdre le couple, leur famille, etc. Et elles sentent que les qualités qui leur convenaient il y a une quinzaine d'années chez cet homme-là, bah c'est peut-être pas ce qu'elles ont besoin en ce moment. Et il y a combien j'ai de femmes qui me disent « Mais si je pouvais le quitter 4-5 ans, juste m'amuser un peu et revenir avec lui finir ma vie, ça serait génial. »
C'est que c'est très dur de renégocier le contrat. Parce qu'il y a un peu ce côté gravé dans la pierre de « Bon,
c'est un changement de contrat, exactement.
Bien
c'est
sûr.
Un avenant à faire. Et, ouais.
C'est ça. Alors, est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on va chercher à côté ? Ou est-ce que je me fais mal moi-même et j'accepte cette situation parce que c'est ce que j'ai signé au début ? Et puis, les enfants. Et puis, donc voilà, c'est pas évident. Et parfois, quand ça pèse trop, quand il n'y a pas de soupape, quand il n'y a pas de médecin pour en parler, quand ça explose.
Donc du coup, c'est quoi la prescription ? C'est un amant ?
Le conseil que je donne à ces femmes, un amant, nous, on ne conseille jamais ça, mais si ça arrive, on n'est pas contre.
Ouais.
Mais le premier conseil, c'est de dire à son homme, non pas de lui reprocher ce qu'il est, parce qu'elle l'a choisi pour ça. Non, c'est de lui dire, je suis dans une phase de ma vie où je cherche autre chose. Qu'est-ce que t'en penses ? Si ça se trouve, il est dans le même état et il n'ose pas le dire parce qu'il pense qu'elle aussi, elle veut être que maman et voilà. Et donc, le fait d'en parler. Et quelquefois, on réveille chez l'autre. C'est-à-dire, on a choisi un mec parce qu'il est cool, parce qu'il est agréable, parce qu'il nous aide à faire le ménage, parce qu'il est fiable, pas coureur de jupons, etc. Et puis, 20 ans plus tard, on lui dit, j'ai envie de vivre autrement, j'ai envie qu'on s'épanouisse un peu, qu'on se découvre un peu, etc. Et ça se trouve, le mec, il va dire, bingo, ouais, pourquoi pas. Donc la première chose, c'est d'en parler. D'ailleurs, si le mec il dit non, 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 moi j'ai rien demandé, c'est toi qui as changé, c'est toi qui as un problème,
ouais,
c'est là, là où ça où... commence, à... ouais. La question commence à se poser, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je reste avec lui, mais j'ai une vie à côté voilà. Et quelquefois, on parlait d'infidélité, quelquefois l'infidélité peut sauver le couple. C'est très bizarre à dire.
Non, non, mais ça se comprend. Hein.
D'avoir une relation qui permet de se sentir un peu épanoui, et le couple survit, et comme disait Simon, si tout le monde est bien comme ça... Et ben,
c'est ça, ben le problème, va. C'est qu'on part d'une conception où le couple doit régler tous nos besoins, où le couple doit subvenir à tout, où la personne en face de nous doit être mère, père, meilleur ami, confident, amant, doit tout faire. Ouais. C'est très compliqué. Dans quel monde une personne peut assumer toute cette charge-là? Donc c'est pour ça que Esther Perel était à Paris là mardi soir pour un talk où elle reparle donc de son ouvrage sur l'infidélité et de toute la sexualité en captivité, hein, ce qu'elle appelle le bouquin c'est Mating in Captivity. Comment tu fais pour être tout ça pour une seule personne? Et c'est pour ça que aujourd'hui on a tous ces problèmes aussi visibles qu'il y a autant de consultations.
Ouais, et puis c'est tellement facile en plus aujourd'hui, tu sais, avec les réseaux sociaux, avec les applications, etc. Si t'as un petit besoin de rebousser ton ego, de choses comme ça.
On a toujours l'impression qu'on a mieux ailleurs avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, depuis les réseaux sociaux, le taux d'insatisfaction dans les couples a augmenté. Et
ben on se compare davantage du coup.
Dans le passé, on avait quoi comme point de comparaison? Ben, les voisins. Le fromager et sa femme, le boulanger, etc., les gens du quartier. De nos jours, en une semaine, on croise et on voit plus de gens que nos parents toute leur vie.
Ah bah bien sûr. Ah ouais, oh là là.
Et donc, on voit beaucoup plus. Et du coup, on a cette impression que... Et on rajoute à ça un autre phénomène, c'est que quand on poste quelque chose sur le réseau social, on poste pas nos problèmes.
Ah, c'est sûr.
Donc, on poste que les trucs qui vont bien. Et donc, ça renforce cette idée que chez les autres, ça se passe mieux. Par exemple, dans un couple, il y a une petite difficulté. Ils sont ensemble, imaginons, depuis un an ou deux, puis il y a une petite difficulté qui commence et le mec ou la nana, elle est en contact avec d'autres personnes. Ben oui, ça peut être tentant de se dire, mais est-ce que je m'emmerde à résoudre mon problème dans le couple? Est-ce que, ben, comme j'ai d'autres possibilités, j'arrête et puis je vais chercher un autre couple qui marcherait mieux? Et ben, ça pousse un peu moins à essayer de régler les problèmes dans le couple, effectivement.
Et ça, c'est cette génération vraiment à la carte. On a nos abonnements, on a Internet, on a tout, on résilie en une demi-seconde. Et pour le couple, cette impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, elle est faussée par la perception qu'on en a. On ne sait pas ce que vivent vraiment les autres, même quand ils postent des superbes photos de couple merveilleuses. Donc, il faut faire très attention à ça. Et on se retrouve très vite pris dans un cycle où on a un hamster, vraiment. Ça va, ah, ça va pas, ok, je change, mais je refais la même chose à chaque fois. Et ça, on a avec les serials séducteurs, hein, vraiment, qui passent d'une femme à l'autre en cherchant la perfection, mais elle n'existe pas. Il y a cette image erronée. De je vais trouver un jour la femme, le bonheur avec laquelle je serai fidèle, ça n'existe pas. Oui. Le couple et l'amour, ça se construit,
c'est
ça se
question
veut,
de sexe,
ça se décide.
Pour ces hommes-là, hein. C'est plus une question de conquête et de changer.
Non, c'est juste partir d'un point où il y a quelqu'un que tu connais pas et arriver à te dire cette personne est prête à coucher avec moi. Ouais. Moi, j'ai plein de potes comme ça. C'est juste ça, c'est même pas le sexe. Hein. C'est juste le fait de dire j'arrive à convaincre quelqu'un tout simplement en fait.
Ouais, ça les rassure. Ouais.
Typiquement, ces mecs-là, ils te disent quand j'ai fini de faire l'amour, je m'ennuie déjà. C'est dans la minute après avoir joui, je me demande ce que je fais là et j'ai envie de partir parce qu'en fait, le but est atteint. J'ai fait craquer.
C'était
cette
de la séduction pure. Hein. Ah ouais. Ok. Donc là, on a fait un bon point sur la libido. On peut encore un peu parler sur les questions psy. C'était une question que j'avais. Est-ce que mes stimuli reflètent mes fantasmes et envies? Est-ce que ce qui m'excite, ce que je vois qui peut m'exciter sur une pratique ou quelque chose, va forcément refléter
j'aimerais faire? Pas forcément. Il y a par exemple beaucoup de mecs qui ont des fantasmes homosexuels et qui ne passeront jamais à un acte et qui n'en ont même pas envie.
D'accord.
Il y a des femmes qui ont des fantasmes d'être violées. Elle fantasme sur le fait d'être qu'un homme inconnu les attache dans une cave et les viole. Et c'est un fantasme. Jamais le jour où elle va vivre ça, elle va dire « ouais, chouette ». Et par exemple, tout à l'heure, on parlait des sextos. Il y a des personnes qui, dans les sextos, se lâchent complètement. Et le jour où ils vont rencontrer cette personne, qu'ils n'ont pas encore rencontrée, ils disent, je ne sais pas si je vais oser faire tout ce que j'ai écrit.
Ça va être beaucoup plus réservé, bien sûr.
Oui, quand on passe à l'acte, c'est une autre histoire. Donc, ce que je fais ne reflète pas ce que je fantasme, et ce que je fantasme ne reflète pas ce que je fais, sont deux choses différentes. Bien sûr, je peux avoir des fantasmes que je fais, comme je peux avoir des fantasmes que je ne ferai jamais. Et comme je peux faire des choses sur lesquelles je ne pensais pas fantasmer, et puis finalement, je les ai fait. C'est vraiment indépendant.
Justement, pour ces hommes qui ont des fantasmes homo, qu'est-ce qui peut les empêcher de passer à l'acte, etc. Parce que là, j'essaie de rattraper la question. Qu'est-ce qui empêche certains mecs de vouloir se faire pénétrer? Est-ce que c'est un blocage? Est-ce que c'est une...
Par un homme ou par une femme? Allez, on va prendre
les
deux cas.
J'ai pas eu de précision.
La façon dont on pose la question, qu'est-ce qui empêche le mec de se faire pénétrer? Ça laisse supposer que c'est normal de se faire pénétrer et lui, il a un blocage. Non, attention, là, on trouve partout Insta, des blogueurs, des blogueuses de toutes sortes. Waouh, le point G masculin.
Ah bah là, j'en ai eu, mais j'ai tellement, Gilbert, de questions sur l'orgasme prostatique.
C'est ça, l'orgasme prostatique, en ce moment.
C'est la tendance.
C'est la mode.
C'est le truc vendu, parce qu'il y a des trucs à vendre derrière.
Il y a deux trucs en ce moment. Il y a le squirt chez les femmes.
Ah oui, c'est vrai.
Qu'elles doivent gicler. On est toutes des squirteuses, mais non. Attendez, on se calme. Oui, les mecs, c'est génial, l'orgasme prostatique, c'est génial. Ouais, mais attends, c'est peut-être génial pour toi, moi, j'ai pas envie d'essayer. Tu me dis que t'aimes bien la tarte à la fraise et que tu me dis que c'est génial et qu'il faut absolument que je goûte. J'ai pas envie. Et tu vas pas me traiter que j'ai un blocage psychologique parce que je mange pas la même nourriture que toi.
Non, mais là où ils ont un sujet, je trouve, c'est qu'au fond, ça reste quand même l'anus d'un mec, ça reste quand même super, super tabou.
Ça reste tabou parce que pour lui, si je me fais pénétrer l'anus, est-ce que c'est parce que j'ai une tendance homosexuelle, etc.
Parce que la pratique se lie à la sexualité.
Donc tu vois, c'est pas juste j'ai pas envie, je pense que là, il y a un vrai truc un peu à déconstruire. Alors après, t'auras envie ou pas, mais il y a des vrais blocages super.
Bien sûr. Et je voulais commencer par dire attention, c'est pas parce qu'on ne fait pas un truc qu'on a un blocage. C'est pas parce qu'on ne fait pas telle ou telle pratique qu'on a un blocage. Maintenant, effectivement, pour les hommes, quand, par exemple, moi j'ai eu un patient une fois qui m'a dit, je suis sorti avec une nana, c'est génial et tout, j'aimerais la revoir, mais il y a un truc qui me bloque. C'est quoi? Elle dit, elle a essayé de me mettre un doigt dans le derrière et ça m'a bloqué et du coup, j'ose plus refaire l'amour avec elle, etc. Donc, effectivement, là, on peut parler d'un petit blocage, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose, il n'a pas dit, je n'ai pas aimé. D'un point de vue sensation, plaisir, il a dit « je suis bloqué par ça, qu'est-ce qu'elle va penser de moi ?» etc. C'est un reste de l'idée qu'un homme, un vrai, c'est lui qui pénètre, il ne se fait pas pénétrer, ce qui est une ânerie totale, parce qu'on peut très bien dire qu'un homme, un vrai, c'est celui qui se fait prendre par une femme et pas celui qui pénètre une femme. Pourquoi c'est le pénis qui rentre dans la femme et c'est pas le vagin qui prend le pénis?
Exactement.
C'est toujours une vision masculine.
Ouais, pénétrer, ouais.
C'est effectivement des restes d'idées. En général, les mecs qui ont envie d'essayer, ils finissent par essayer, mais avec une personne de confiance.
D'accord.
C'est rare qu'ils essayent. Alors, soit avec une personne dont ils ont rien à faire
comme ça,
et qu'ils vont plus jamais revoir, soit avec une personne vraiment de confiance avec qui ils savent qu'il y aura pas de jugement, ils savent que c'est juste un jeu, etc.
D'accord. Bon, très bien. Ça, cette question, j'ai gardée parce que je la trouve assez touchante et après, elle nous permettra de passer sur le côté santé. Qu'est-ce qui plaît vraiment aux hommes? Alors ça, c'est...
blague. C'est très intéressant.
Ce que veulent les hommes.
Bien sûr, ce que veulent les hommes et ce que veulent les femmes, pareil, c'est tellement vaste. On a tous des modèles parentaux différents, on a tous des envies différentes. Là, on est en train de parler de plaisir prostatique, c'est pas parce que je mange la même chose que toi et tout. J'adore le jus de citron, je pourrais mettre du citron sur tous mes poissons, mais la tarte au citron, le citron en pâtisserie, ça me dégoûte, j'aime pas ça du tout. Tu vois, donc...
Merci pour
niveau, un message. Voilà, non mais elle le sait, madame le sait déjà. Ce qui plaît aux hommes, on a tous des groupes de potes et il y a toujours, quand t'es plus jeune et même quand tu vieillis, tu regardes, tu vois passer des femmes, ah elle est mignonne, mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu lui trouves? On n'a pas les mêmes modèles. Par exemple, votre mère, vous la trouviez splendide quand vous étiez gamin et tout à coup, en grandissant, vous vous rendez compte que peut-être vous allez être attiré par les femmes aux cheveux longs, alors que d'autres, parce qu'elle avait les cheveux longs, alors que d'autres vont jurer par les cheveux courts, petits seins, gros seins, longues jambes, fesses, on a tous, ça c'est pour les points physiques. Et après, ça va être aussi mentalement, il y a des hommes qui préfèrent des femmes plus soumises, qui vont parler un peu moins, qui vont moins l'ouvrir, parce qu'ils se sentent un peu menacés, alors que d'autres sont complètement ok avec l'idée d'une égalité, avec l'idée d'un épanouissement de couple où la femme vaut autant, voire gagne plus parfois. Et toutes ces questions-là, c'est ok, qu'est-ce que tu cherches? On cherche pas la même chose. Mon meilleur ami et moi, on n'a pas la même typologie, on va dire, de compagne. Quand j'élargis à tout mon cercle d'amis, pas forcément la même chose, on recherche pas les mêmes choses. Il suffit juste d'accepter. Là, il n'y a pas 12 000 questions à se poser. qu'est-ce que tu aimes, fais ce que tu aimes. Oui, on est tous soumis au même modèle médiatique, ok, la mannequin toute maigre comme ça, mais la réalité c'est que peut-être le 18e siècle et les femmes un peu plus rondes, ça te convient mieux, t'es plus méditerranéen, t'as été élevé avec plus de hanches, plus de fesses, plus de seins, ok, go for it, t'es plus sur les blondes suédoises ou les anorexiques de l'Est, ok, go. Mais il n'y a pas de jugement, en fait. C'est juste, fais tes trucs et arrête de te prendre la tête sur ce qui plaît aux hommes. C'est ce qui te plaît à toi.
C'est du ressenti et pas de la réflexion. Et on rajoute à ça, pour simplifier, tout ce qu'on vient de dire peut être variable d'une période de vie à une autre, d'un changement de boulot à un autre, d'un changement de ville à une autre. Et ça peut être variable d'une partenaire à une autre. C'est-à-dire, on peut être avec une partenaire en ayant besoin et envie de telle chose, et on peut avec notre partenaire avoir d'autres besoins. Combien de mecs ont dit de nana, ah moi j'aime les blonds, j'aime les bruns, et puis on tombe amoureux d'une personne mais qui colle absolument pas. Et sur la séduction, l'attractivité, il y a un truc qui est excellent, une étude qui mérite d'être connue, où on a demandé à des femmes et des hommes de dire, de classer par ordre de préférence le degré d'attractibilité, de désirabilité d'une personne. Et d'abord, on a montré des images uniquement du visage, un peu photo d'identité. Ensuite, on a montré une image complète, la personne debout. Et ensuite, on a montré une mini vidéo avec le son et on voit la personne bouger, se mouvoir, parler, etc. À chaque fois qu'on changeait, le classement changeait.
Ok.
Et donc, la plastique pure n'intervient pas au final autant. Et c'est là où les conseils de séduction sont importants. C'est pas oublie ton, t'as aucune chance et fonce sur un malentendu. C'est pas ça. C'est modifie ton comportement et ton image changera en fait.
Mmh. Bien sûr.
J'entends. Ok. On va parler de la santé maintenant parce que j'ai eu pas mal de questions aussi sur la santé. À partir de quel âge les troubles d'érection arrivent-ils de manière régulière? Est-ce qu'on peut éviter de vieillir sexuellement? Et ça, c'est sur les érections, ouais.
Alors,
et des moyens de vaincre l'impuissance aussi.
Oui, ça revient.
Ouais, ça, voilà. C'est...
On sait que c'est plus fréquent après 40-45 ans. Mais notre enquête, IFOP, Charles.co récente, a montré que les troubles d'érection chez les moins de 30 ans sont en augmentation. On n'a pas d'explication, c'est-à-dire entre les enquêtes faites aux États-Unis, en Europe, en France... On est aux alentours de 20-30% quand même des mecs de moins de 30 ans.
C'est beaucoup.
Ce qui
hein.
est énorme.
Ah ouais.
Oui, oui. Quand on y réfléchit, c'est énorme. Sur une centaine de consultations pour troubles de l'érection, il y en a 20 qui ont moins de 40 ans.
Qu'est-ce que le trouble d'érection, justement?
Le trouble de l'érection, c'est défini, et heureusement maintenant, il n'y a plus de critères objectifs. C'est défini comme incapacité ou difficulté à obtenir ou à maintenir une érection suffisante pour un rapport sexuel satisfaisant.
D'accord.
C'est-à-dire, il y a des hommes qui vont dire j'ai un problème d'érection juste parce que ça, il y a un peu moins de rigidité. D'autres qui vont dire j'ai un problème d'érection où il y a plus du tout d'érection. Donc, c'est le ressenti qui est prime. Et donc chez les jeunes, c'est malheureusement en augmentation. On n'a pas d'explication très nette.
Toi, t'as pas d'idée, Gilbert, d'où ça peut venir?
Je pense qu'il y a deux choses. Les réseaux sociaux. Je pense que ça joue beaucoup.
Bien sûr.
Visionnage porno. D'ailleurs,
alors, l'enquête montrait que la prévalence des problèmes était bien plus forte sur les gens qui regardaient beaucoup de séries, parce que ça peut, bah, tu sais, tout le temps sur des écrans, etc.
D'accord.
De temps de couple. Et surtout, le plus gros truc, c'était le porno. Donc,
oui.
Sur les mecs qui visionnaient du porno tous les jours, le problème
c'était
d'érection
50%
était...
pratiquement.
Et pourquoi? Alors ça, ça.
Alors,
me...
on ne sait pas si
j'arrive
c'est.
Pas à comprendre le lien.
En fait, je n'arrive pas moi à savoir si c'est parce qu'ils ont des problèmes qu'ils visionnent énormément ou l'inverse. C'est un peu difficile à savoir,
mais je pense
que le visionnage donne des problèmes. Il y a la notion de performance dont on parlait tout à l'heure. On disait hein, ce qu'on voit et ça colle pas avec nous. Il y a le fait qu'un peu à la fois, on devient ce que j'ai appelé moi à un moment autosexuel, ni hétéro ni homo. On est bien avec soi-même. Et du coup, le jour... puis, il y a autre chose. Quand on regarde un film porno, une scène, on peut zapper comme on veut. L'introduction, on peut la zapper. Hein. Les préliminaires, on peut les zapper. Et on peut aller vers les scènes qui nous excitent. Et donc, on peut très vite bouger le curseur pour être tout le temps dans l'excitation. On ne peut pas zapper la partenaire. On ne peut pas lui dire, allez, maintenant, on passe à ça. Et donc, le fait de visionner tout le temps le porno, on rentre dans un fonctionnement, une façon de voir le sexe qui n'est pas compatible avec la vie réelle. Et du coup, on a des difficultés dans la réalité
dans la,
à
oui,
être excité.
Comprends.
C'est
donc
ça.
C'est pas un problème d'érection, mais d'excitation, en fait, dans la réalité.
Et mentalement, tu sais, t'es là, t'es devant ton écran d'ordinateur ou ton smartphone. Hop, il y a une blonde. Hop, là, il y a une rousse. Hop, une noire, une asiate, machin. Tout ça en l'espace de 20 minutes. Et après, toi, tu te retrouves avec... encore ma compagne, toujours la même. Et c'est très compliqué quand tu as, tu sais, toute cette variété, que tu es nourri à cette variété et qu'au quotidien, c'est la même chose, ça peut être très compliqué pour certaines
donc,
personnes.
Du coup, ouais, faut faire...
dans les films porno, le livreur de pizza arrive, 2 minutes après, il se fait sucer.
C'est vrai.
Il a beau ramener une pizza à sa femme, il ne va pas avoir le même traitement 2 minutes plus tard. Et donc, il y a un problème de connexion avec la vie réelle. Alors, il y a probablement aussi un problème des écrans en eux-mêmes. Ça détruit la mélatonine dans notre tête et personne ne sait ce que ça donne. Et puis, on sait par exemple que aujourd'hui, par rapport à il y a 40 ans en arrière, les hommes ont 50% en moins de capacité de reproduction. C'est-à-dire le sperme est altéré 50% par rapport à il y a 40
donc,
ans.
Donc, ça, on parlait effectivement des.
Donc, il y a probablement des
toxiques, chaleur,
des perturbateurs endocriniens qui viennent jouer aussi sur la libido. Mais le visionnage de porno, c'est, on le voit énormément dans
c'est
les couples. Énormément.
Tous ces critères, ce qu'on mange, la sédentarité, les écrans, le porno, tu vois, c'est tout ça qui s'accumule. Plus, on va dire, le climat social aussi, hein, l'instabilité qui joue sur ton angoisse, ton stress, cortisol en hausse, t'es en stress, hop, c'est bon.
C'est vrai qu'il y a plus d'anxiété chez quelqu'un de 25 ans aujourd'hui, 30
ah bah oui,
ans, par rapport à il y a 30 ans en arrière.
C'est ça, il y a toute une génération des 20-25 ans qui ont très peur du futur et qui sont déjà déprimés avant même d'avoir commencé leur vie active à 20 ans.
Et donc, quand on mélange tout ça, ça explique pourquoi avant on disait... Les problèmes d'érection, bah,
c'était
après 40-45
pour moi,
ans,
c'était vraiment un truc de vieux monsieur, âgé, quoi. Ah ouais.
Et bien, maintenant, il n'y a plus ces règles-là. Alors, bien sûr, ça reste beaucoup plus élevé après 50 ans. Pas seulement à cause de l'âge. L'âge est un facteur, mais c'est surtout à cause du mauvais état de santé éventuel.
Mmh, oui.
C'est après 50 ans qu'on a des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète, des problèmes de prostate, neurologiques, etc. Des problèmes d'hormones. Et donc, ça vient à rajouter un cran. Et donc, là, par contre, on est... aux alentours de 1 sur 2, un homme sur 2.
Ah oui.
Si vous prenez un homme, par exemple, diabétique, c'est 60% des hommes diabétiques qui ont des problèmes. Diabétique avec problème cardiaque, c'est pratiquement 3 quarts. Dépression, c'est pratiquement les 3 quarts qui ont des problèmes. Donc, c'est des chiffres très élevés et ça va augmenter.
D'accord.
On sait, tous les experts s'accordent à dire que dans les 10-15 ans qui viennent, on va voir une augmentation encore de nombre d'hommes qui ont des problèmes d'érection parce que la durée de vie s'allonge. Parce qu'on change de partenaire plus souvent qu'avant et un changement de partenaire c'est une mise sous pression supplémentaire. Si on a une petite panne ou une érection pas très forte avec une partenaire qu'on connaît depuis 20 ans, c'est beaucoup moins gênant que lors d'une première rencontre. Et puis l'augmentation chez les jeunes, donc c'est la prévalence des problèmes d'érection est en augmentation. Alors est-ce qu'on peut les éviter ?
Ah, c'est ça, oui.
On peut éviter, chez les jeunes, là, on a dit, vraiment l'histoire des connexions, réseaux sociaux et surtout les écrans, c'est vraiment une alerte. Là, c'est la toute première enquête qui montre un lien aussi direct que ça. Et les thérapeutes sont tous d'accord avec le fait qu'il y a un lien. Et donc, une alerte sur le fait d'attention à ces addictions-là aux écrans.
D'accord. Est-ce qu'il y a une moyenne ? Parce qu'on sait pour les très jeunes enfants, ça c'est hors de question. Mais est-ce qu'il y a une moyenne ?
On peut essayer d'en estimer. Le problème, c'est que, par exemple, moi, si ça se trouve, au bout de 2 heures, je vais avoir des dégâts. Et sinon,
d'accord.
Si ça se trouve au bout de 8 heures. Donc
oui, oui. Il y a pas de...
Le tout, c'est d'être toujours avoir cette impression qu'on est libre de ça.
D'accord.
Qu'on n'est pas dépendant et qu'on peut arrêter à tout moment. Ça, c'est chez les jeunes. Chez les moins jeunes, il y a 2 façons d'éviter de vieillir sexuellement. La première, c'est de savoir qu'on va vieillir sexuellement. Et donc, de ne pas chercher tout le temps à retrouver le fonctionnement d'avant, mais de développer une capacité d'adaptation. Mon corps change, je vais m'adapter à mon corps. Exemple, si je monte les escaliers et que je vois que quand je monte, j'ai des petites douleurs dans le genou, je suis un peu essoufflé, je ne vais pas aller tout faire pour continuer à monter les escaliers 2 marches par 2 comme avant. Non, je vais m'adapter et tout va bien, je vais arriver en haut. Et bien, sexuellement, c'est la même chose, pas s'acharner à trouver ce qu'il y avait avant, mais de s'adapter. Mais il y a quand même des trucs qui permettent de retarder le plus possible le vieillissement sexuel. Les trois choses qui paraissent être les plus influençantes sur la sexualité et le vieillissement. Sport, diététique et état mental psychologique. Je rajouterai sommeil.
Sommeil.
Voilà. Mais qui, pour moi, fait partie de l'état mental psychologique. Donc, garder une activité physique, sportive, une bonne alimentation. Alors, en quoi ça joue ? ça joue sur le fait que nos artères vont beaucoup moins bien vieillir. Or, c'est elles qui amènent le sang dans le sexe. Et le fonctionnement sexuel, c'est ni plus ni moins qu'une congestion de sang qu'on a dans le pénis. Chez les femmes, c'est la même chose. Les petits papillons qu'on a dans le bas du ventre, c'est une vasodilatation des artères. En fait, c'est beaucoup moins poétique.
C'est vrai. En tout cas, c'est Gilbert.
Tu me provoques de la vasodilatation dans les artères.
Tu me vasodilates mon périnée.
Oh, waouh. Ça y est, je suis en face plateau. C'est parti. Ouais.
Donc, on préserve nos artères, okay, on préserve nos hormones. Et puis, bonne santé mentale, c'est quoi? C'est à chaque fois que je vois que je suis dans une période d'anxiété, d'irritabilité, de pseudo-déprime, d'en prendre conscience, de prendre du recul et d'essayer d'être le moins impacté possible par ça.
Ok, bon, très clair. On a parlé du... Non mais je suis effarée des chiffres en fait chez les jeunes.
Tu sais, oui, là ce que j'ai vu, j'ai lu une étude récemment, 1995, c'est à partir de cette génération là, parce que tu rajoutes à peu près 12 ans, c'est le premier iPhone en 2007, c'est eux les premiers à être les plus touchés, il y a une augmentation qui est vraiment corrélée, hein, crise de panique, crise d'angoisse. Et ça ne fait qu'augmenter, parce qu'ils sont nés avec. Et donc, voilà, ils avaient 12 ans quand le premier est arrivé, tu vois, genre au collège. Ils vivent avec, ils passent la journée dessus, la durée s'allonge. Et le voilà, soir, la lumière bleue, la destruction de la mélatonine. Le soir, ils scrollent, ils sont sur Snap, ils sont sur Instagram à regarder des stories. Et c'est très, très compliqué parce que ça nous affecte vraiment. Mmh. Tu vois, ça détruit un peu le lien social qui est plus complètement le même. Mmh. Tu le vois aujourd'hui, hein, pendant des premiers rendez-vous, le nombre de gamins. Mais imagine, j'ai des questions pendant les sessions de coaching. Concrètement, je lui demande quoi pendant un premier rendez-vous? Tu vois, l'art de la conversation est vraiment en train de se perdre, l'art de se connecter à l'autre, de poser son téléphone, pas sur la table, dans la poche, et de t'ouvrir. Waouh, il y a quelqu'un en face de moi. Si on n'arrive déjà plus à faire ça avec des amis, des collègues, un premier rendez-vous, imagine le degré d'intimité et de connexion que requiert une relation sexuelle. Ça fait peur, ça fait flipper. Donc ça devient un peu compliqué.
Restos, on regarde autour de nous le nombre de couples qui parlent, qui sont chacun sur leur smartphone, et quand ils se parlent, c'est pour dire ce qu'il est en train de voir sur le smartphone. On en voit énormément.
Wow. Et encore nous, on a la trentaine, hein, faut se rendre compte que nous, on a connu autre chose.
Oui, c'est ça.
On a les ceux deux qui n'ont jamais rien connu d'autre. C'est...
Merci de me dire que j'ai la trentaine.
Trentaine plus 30 pour Gilbert.
Trentaine plus.
Double 30.
Moi, ça fait 30 ans que j'ai 30 ans.
Ouais. Bah, nous, on est 30 middle. Ouais. Non, mais c'est vrai.
Une dernière chose qui explique les problèmes d'érection chez les jeunes, et celle-là, j'y tiens beaucoup, c'est le changement de l'attitude des femmes. Dans le passé, un mec qui avait une petite panne lors d'un premier rendez-vous amoureux, les femmes étaient plutôt ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas grave, prévenante. Si ça recommence, toujours prévenante, voilà. Et elles avaient un côté acceptation de ça. De nos jours, non, les filles, elles lui disent « Ah non, moi, j'accepte pas ça. Hein. »
Elle fait autre chose, mec.
Moi, j'ai un patient que j'ai vu récemment qui est venu me voir parce qu'il pense qu'il va avoir un problème d'érection. Je lui dis « Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là » D'ailleurs, je l'ai vu sur Charles et pas en consultation, parce que l'avantage sur Charles, c'est qu'ils peuvent prendre rendez-vous très rapidement. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il m'a dit, j'ai rencontré une nana, je sens que ça va venir, là, ce week-end, on va probablement concrétiser sexuellement, etc. Et il me dit, je suis bloqué depuis que, lors d'une discussion qu'on avait comme ça, on papotait, et elle m'a dit que son ex, c'était un mec qui assurait sexuellement.
J'ai eu des garçons comme ça.
Et ce mec-là, lors du premier rendez-vous amoureux, je peux vous dire qu'il va avoir la trouille et il va avoir plus de risques.
Parce que il ne sera pas dans un état émotionnel,
détendu,
bien sûr.
Il ne sera pas excité. Forcément,
c'est fou déjà d'anticiper ça. Alors
et donc le changement d'attitude des femmes, à mon avis, contribue à l'augmentation des troubles d'érection. Alors, on ne va pas dire aux femmes de changer. Hein.
Non, bien sûr.
On va dire aux mecs plutôt
de s'adapter.
Voilà. Et surtout le mode de rencontre aussi, parce que les générations Tinder, Happn, etc., les gens, ils ont un date. En général, ils convertissent après ce date-là. Et ils disent,
on sent le mec de start-up, il convertit.
Non, mais...
La transfo.
Convertir, ça va. Transformation énorme. Non, mais... Et donc, ils vont avoir une relation après. Ils savent que c'est un peu one shot en général,
ou ça
peut l'être, ou ça peut amener à quelque chose d'autre. Ils ont un peu une chance. Et je pense que ça détermine vachement, ça met beaucoup de pression.
Et puis, l'être humain est une machine formidable, passionnante. Et vous avez des personnes, c'est exactement l'inverse. Quand c'est du one shot, ça fonctionne super bien. Quand on est amoureux, c'est là où ça bug.
Ouais, c'est ça aussi. J'ai eu des garçons qui m'ont raconté ça.
C'est là où ils se mettent la pression, avec elle, il faut que j'assure, avec elle, je veux pas que ça foire.
Exactement.
Je veux que ça marche.
Dès qu'il y a de l'émotion et de l'émotivité, du sentiment, ça
devient
un peu compliqué.
Valeur,
Oui, c'est vrai. C'est fascinant.
Et donc, il y a plein de raisons qui expliquent que ça augmente chez les jeunes, et en tout cas ça augmenterait encore un peu. Non.
Faire attention à tout ça, et avec vos bons conseils, essayer de se prémunir de ces soucis-là. Comment on retarde l'éjaculation précoce ?
En pensant à mamie. Ouais.
Aux examens de fin d'année. Hein.
Aussi.
Non mais Charles Poincot va sortir avec l'IFOP encore une fois.
Un
sujet là-dessus en septembre. Donc il y a les 10 raisons, on est en train de sonder les Français là-dessus, les 10 façons de retarder l'éjaculation.
Super.
C'est vrai, Gilbert, tu dois avoir des...
Parce que ça, j'ai eu pas mal de questions aussi sur l'éjaculation.
Qu'est-ce qui revient le plus souvent, tu sais, c'est ce faux truc de « ok, je dois penser à autre chose, je dois plus être dans le moment présent, vraiment ». Donc la grand-mère, tu vois, c'est un peu la blague, mais qui revient souvent. Tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure, parce que l'exemple, il nous venait du film « Marie à tout prix », tu décharges le fusil avant ton rendez-vous.
Ça marche avant 40 ans. Après, pour rattraper la
c'est ça, voilà. Après, t'es plus là, t'es plus présent et c'est dommage. Et sinon, ce que tu vas trouver le plus souvent sur le web, c'est apprendre à contrôler ton périnée. Vraiment, c'est vraiment, tu fais tes exercices de Kegel dans le métro, au bureau, et tu vois des mecs qui froncent les sourcils comme ça. C'est très, très drôle.
Toi aussi, tu disais. Tu travailles là.
Hein. On a même... Je voyais les sourcils froncés, je me demandais ce que tu faisais.
Rendez-vous ce soir, c'est ça. Et voilà, ça peut être des techniques, mais je pense que...
Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas l'éjaculation qu'on retarde, c'est l'excitation qu'on évite de monter rapidement. L'éjaculation, on ne la maîtrise pas. Chez l'homme, par rapport à la femme, il y a un point de non-retour. Quand on l'atteint, ça va partir, qu'on arrête ou pas. Chez la femme, d'ailleurs, ça part pas si on arrête une fraction de seconde avant.
C'est
plus
précis.
Pourquoi les femmes, en général, disent « bouge pas » quand on est, si vous permettez l'expression, quand elles sont à deux doigts de jouer. Voilà. Alors, chez l'homme, on apprend à moduler la montée de l'excitation. Donc, à faire de sorte que l'excitation ne monte pas aussi rapidement.
Plus par palier.
Voilà. Mm-hmm. Et une des choses, par exemple, qui aide beaucoup, et on revient encore une fois à bien connaître la partenaire, c'est de se souvenir que ce qui provoque en général l'éjaculation, c'est les mouvements de pénétration. Et d'accord. Si on se souvient que l'acte sexuel, on est en train de le travailler déjà avec ou sans éjaculation rapide, pour que la pénétration ne soit pas la pièce centrale, ça va déjà aider beaucoup, sans retarder l'éjaculation, à aller beaucoup mieux, puisqu'on ne va pas tout figer, tout miser sur la pénétration. Quoi. Mais les mouvements, les exercices du périnée, ça marche très bien. Ça s'appelle du sexo-corporel.
D'accord, ok. C'est intéressant.
Les hommes oublient qu'ils ont un périnée.
Bah oui, on parle beaucoup tout le temps du périnée des femmes et leur rééducation.
La respiration, on va être vraiment beaucoup là-dessus. Parce qu'on se stresse. Hein. C'est le moment où quand tu te mets à penser « Ok, il ne faut pas que j'éjacule, il ne faut pas que j'éjacule, mec. Let go, vraiment, relâche-toi, respire. » Et puis fais autre chose. Pire, tu peux faire autre chose. T'as des doigts, t'as des mains, t'as des jouets. T'es pas obligé
et
de.
La chance que la femme, ça lui convient très bien que tu fasses autre chose.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
C'est ça. Donc, respirer, apprendre à. La méditation pour certains, ça aide vraiment. Oui.
Les mindfulness, les techniques de pleine conscience. Et en fait, c'est souvent des personnes qui sont speed, sans jeu de mots, en tout.
D'accord.
C'est des mecs qui passent d'une chose à l'autre très rapidement et donc. On leur apprend simplement à prendre le temps.
Voilà. Juste prendre le temps. Concernant l'éjaculation, j'ai eu aussi des questions sur est-ce qu'un homme peut éjaculer sans orgasme et inversement et faire ce distinguo-là ? Parce que c'est pareil, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que éjaculer égale orgasme, alors que pas forcément.
Alors c'est très fréquent. C'est-à-dire la majorité des cas, quand on éjacule, il y a un orgasme et quand on a un orgasme, on éjacule. Mais ce sont deux systèmes séparés sur le plan médical, neurochimique. Par exemple, il y a certaines maladies, là, pour parler des maladies, où on va avoir une éjaculation sans aucune sensation, comme chez les personnes qui ont une paraplégie, sclérose en plaques, certaines maladies neurologiques également du périnée. Et un homme peut même apprendre à avoir des orgasmes sans éjaculer et donc à devenir multi-orgasmique. 1, 2, 3 orgasmes. Voilà. C'est ce que font les techniques tantriques. Mm-hmm. Et donc, on peut avoir un orgasme sans forcément provoquer l'éjaculation, mais ça s'apprend. Ça demande pas mal d'apprentissage. Les premières fois, on foire complètement. Et un peu à la fois, on peut arriver... Alors, il faut être aussi dans une relation où la partenaire connaît le fonctionnement du mec et ils ont pas mal communiqué,
il lui a
expliqué, etc.
Tu fais pas ça avec ton Tinder. Hein.
Non, ça sera...
On va faire du tantrisme, je te propose ça.
Je pense que personne orgasmique comme ça.
Non c'est un peu ambitieux.
Donc effectivement, ce sont deux phénomènes séparés. Et d'ailleurs, il y a aussi un phénomène qu'il faut connaître qui s'appelle éjaculation rétrograde. C'est-à-dire, on éjacule, mais le sperme part dans la vessie. Et donc, le mec va dire « j'ai éjaculé », et la femme va lui dire « tu te fous de ma gueule, non, il n'y a rien qui est sorti ». C'est un phénomène qui existe. Et il y a encore un phénomène qui s'appelle éjaculation sèche, c'est-à-dire on a éjaculé, mais on n'a plus de quoi fabriquer du sperme.
D'accord.
Exemple, on n'a plus de prostate, on va jouir, on va avoir un orgasme, mais il y a zéro goutte de liquide qui va sortir.
D'accord.
Donc, il faut connaître ces variations Et c'est pas forcément lié. En tout cas, faut savoir que ça peut être séparé les deux.
Ok. J'ignorais tout ça. N'ayant pas moi-même de prostate, j'avoue.
Si, il y a une prostate à la fin.
Mais ah, bon, aussi.
Elle est microscopique.
Ah, et, ouais, voilà. Oh, zut alors. très intéressant. Tac, tac, ça on l'a vu. Sur la partie un peu santé, le sexe masculin non circoncis est-il plus fragile ou sensible qu'un sexe circoncis? Je pense que c'est une jeune fille qui m'a posé cette question.
En fait, il y a simplement des études qui ont montré que peut-être que les hommes circoncis ont moins de risques d'attraper des infections sexuellement transmissibles. En Afrique, à un moment, au lieu de donner les médicaments de prévention, on demandait de circoncier. Enfin, c'est pas si net que ça. En tout cas, ce qu'on sait par exemple pour l'éjaculation précoce, quand on fait les études de prévalence, c'est la même fréquence chez les hommes circoncis ou non.
D'accord, donc finalement ça change rien.
Alors qu'on pensait que les circoncis...
Oui,
on pense toujours que la sensibilité, comme tu es circoncis, ton gland a plus de contact en général.
C'est ça,
avec
peau elle est plus épaisse quand on est circoncis, donc moins sensible. Et en fait, c'est là où on se rend compte que l'éjaculation précoce, il y a pas mal de phénomènes
aussi,
vraiment de tension nerveuse plutôt que locale. En tout cas, non, il n'y a pas plus de fragilité, il ne peut pas plus casser. Il faut savoir que ça existe, la fracture de verre.
Oui, oui.
Mais il n'y a pas de choses particulières ou des précautions particulières à avoir. Au contraire, c'est les non-circoncis. S'ils ont le prépuce légèrement serré, il faut faire attention à ne pas décaloter d'un coup. Ça peut fissurer un tout petit
D'accord.
peu. Et donc, quand on décalote, c'est toujours sur une peau qui est humide et chaude.
D'accord.
Donc, comment vous réchauffez et vous humidifiez, ça, je vous laisse faire.
Chacun
mais il faut
est libre
que ça soit
de
humide
cette...
et chaude. Voilà.
D'accord.
Ça, sinon, gare à la rupture de frein.
Qui,
ça fait très, très mal et ça saigne beaucoup.
Et si ça vous arrive, c'est pas grave. On attend que la veine finisse de pisser le sang et il se passe rien de particulier.
D'accord, on n'a pas besoin d'aller aux urgences.
Non,
c'est comme
pas,
ça.
On fera rien de plus aux urgences que de vous désinfecter.
D'accord.
Sauf si ça revient souvent.
Par contre, on consulte après. Ouais.
C'est ça. Ouais.
D'accord, merci pour
ça. Aïe.
Et alors, moi j'ai eu cette question, en quoi consistent les blue balls?
C'est très très drôle. Il y avait un sketch comme ça sur un petit personnage qui était blue balls. C'est avoir les couilles pleines, en gros, les couilles bleues, c'est avoir les couilles pleines.
D'accord.
Il faut que je baisse parce que j'en peux plus, je vais exploser, ça fait mal,
d'accord,
c'est douloureux.
Il n'y a pas eu un mois sans jouir comme ça, il n'y a pas longtemps, le mois sans éjaculation ou je sais pas quoi.
Alors, ça passera pas par mois, ça.
Il y a beaucoup de mois à thème, mais celui-là, je ne l'ai pas vu.
Attention, si vous jouez, il n'y a pas de danger, hein, si vous le faites, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle les coliques du fiancé.
C'est très joli.
C'est un syndrome médical connu. La colique du fiancé, c'est quelqu'un qui est excité, ne jouit pas, puis de nouveau excité, ne jouit pas, et il va avoir des sensations de tension comme des coliques au niveau des testicules.
Ça va être très très douloureux.
Ça peut se soulager très facilement,
soit en prenant
antalgique, soit en éjaculant.
On n'est pas très médical.
Tu peux répéter le nom juste, Gilbert?
Le syndrome du colique, les coliques du fiancé.
Voilà, t'as le point du mari qui est dans un autre délire beaucoup moins poétique et t'as les coliques du fiancé.
Coliques du fiancé parce que dans le passé, les fiancés n'avaient pas le droit.
Bien sûr.
Et donc, ils étaient excités. Le mec avait les boubours bleus, les blue balls et puis ça faisait des tensions.
Super. Alors, on a un peu dévié aussi sur la partie sexo et on a vu pas mal de choses. Donc, en plus, vous avez répondu à pas mal de questions avec vos réponses.
Est-ce que les garçons mouillent ou c'est toujours le début d'une éjac?
Non, ils mouillent.
Nous mouillons.
Ah, merci.
Le liquide préspermatique.
Et il y a un mot très joli, médical pour ça. Ça s'appelle aussi la rosée des amoureux. Voilà.
Oh, c'est beau. La rosée des amoureux.
C'est quoi le mécanisme, alors, Gilbert?
Quand on est excité, le cerveau sait, et qu'on est en érection, hein, excité et en érection, le cerveau se dit, je vais bientôt éjaculer. Il ne faut pas oublier que pour le cerveau, le sexe est prévu pour la reproduction.
Mm-hmm.
Et c'est la fonction principale. Chez la femme, qu'est-ce qui se passe? Il y a une lubrification pour que la pénétration soit confortable et on commence à préparer les muscles du vagin et l'utérus pour la reproduction. Chez l'homme, c'est la même chose, c'est-à-dire... Il ne faut pas oublier qu'on est tellement élégants, nous les hommes, qu'on éjacule et on pisse par le même canal.
Waouh, chic.
C'est classe. Hein. Donc, le cerveau, il se dit, je ne sais pas s'il a pissé il n'y a pas longtemps. Donc, je vais sécréter un tout petit liquide qui va venir lubrifier le canal de l'urètre.
Pour tout nettoyer.
Et en même temps, désinfecter un peu et provoquer un pH basique qui est adaptée au sperme. Sinon, tous les spermatozoïdes qui vont passer vont crever dans le canal. Et donc, on a un petit liquide qui est transparent. Souvent, c'est une ou deux gouttes, mais il y a des mecs chez qui ça peut carrément mouiller le sous-vêtement et ça les gêne énormément parce qu'ils disent, mais elle va le voir, quoi. Je me déshabille, il y a une grosse tache sur le sous-vêtement. Il y a des mecs qui ont une hypersécrétion. Ça reste quelque chose de normal. Et c'est fait normalement pour deux choses. La première, c'est préparer le passage du sperme dans le canal. Et la deuxième, c'est lubrifier le gland pour pouvoir
décaloter
et pour que la pénétration ne soit pas très difficile pour la femme.
Wow.
Donc la petite goutte qui coule, c'est très bien fait.
C'est tellement bien fait quand même. Hein.
Et d'ailleurs, un mec qui bande, par exemple, sous l'effet des médicaments style Viagra, Cialis et autres, s'il est très peu excité, et qu'il bande sous l'effet de ces médicaments, l'excitation n'est pas très forte. Il va avoir une très bonne érection, mais un gland sec.
Oui, je comprends.
Parce qu'il n'a pas eu le...
Ouais. Tout de suite, là, ça... Okay.
Lubrifiant.
Voilà. Oui, bien sûr. Ok, je comprends.
La nature est souvent bien faite.
Une petite dernière question sur le cycle de l'amour, du coup. Pourquoi, après avoir éjaculé, on va toujours uriner? Enfin, c'est un réflexe. Alors,
c'est pas toujours.
Les filles doivent le faire, c'est très important.
Les filles le font pour éviter
les cystites et tout ça. Hein.
Je vous le conseille.
Ah oui, moi aussi. Je vous le conseille.
Je vous conseille la piche.
Ça réduit de 60% le risque de cystite récidivante.
Ah oui,
et si en plus d'aller pisser, vous prenez une dose de cranberry ou...
Faut être équipé.
Voilà. Ça réduit vachement.
Donc, un petit jus de... Tu
sais. Un smoothie ananas.
On va uriner en général pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un état de tension localement. Donc la vessie peut être un tout petit peu comprimée. Donc ça fait... Et puis il ne faut pas oublier que l'excitation, c'est une forme d'émotion. Or, quand on est en émotion, on peut avoir envie de pisser même si on n'a rien. Ça se voit par exemple quand on est tous gamins ou à l'école, c'est le moment d'aller à un examen et on doit aller pisser alors qu'il
n'y a
rien.
Quand on a peur, ouais.
Tout ce qui est de l'ordre de l'émotion peut provoquer une contraction de la vessie.
Ok. Ça, c'est ok. Et sur... Ah oui, c'est sur la sexualité. Moi, j'avais eu quelques questions aussi sur les fantasmes qu'on dit. Alors moi, j'essaie vraiment de pas donner de jugement quand les hommes se livrent à moi dans le podcast parce que beaucoup me parlent de BDSM, de pratiques un peu extrêmes, etc. Alors, j'essaie de pas les... Moi, je dis hors cadre pour pas parler de normalité et anormalité parce que ça m'embête de poser un diagnostic. Voilà, il n'y a pas de normes. Mais ces sexualités-là, est-ce qu'elles évoluent? Quelles sont les tendances? Parce qu'il y a pas mal de gens qui, du coup, se trouvent... façon un peu mal à l'aise d'en parler parce que le BDSM, parce que les fétichismes, parce que... Enfin voilà, il y a pas mal de choses.
C'est un peu plus présent qu'avant.
Ouais.
Et probablement pour plusieurs raisons.
Comment tu l'expliques, tu sais?
Oui, il y a... socialement, ça passe mieux. C'est-à-dire, dans le passé, c'était...
très tabou.
Pas que socialement. Il ne faut pas oublier que dans le manuel... des maladies mentales, de psychiatres.
Bah, l'homosexualité, pendant très longtemps, c'était terrible,
ça. La masturbation était une déviance sexuelle, l'homosexualité était une perversion.
La masturbation rendait sourd.
Ah oui, et la masturbation était considérée comme une anomalie. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a une vingtaine, trentaine d'années en arrière, c'était super compliqué d'avoir une sexualité qui sortait du cadre de homme-femme missionnaire. Il y avait encore des gens qui disaient « si la femme est au-dessus, c'est pas... »
D'accord.
Position très conseillée religieusement parce que le sperme va couler, donc on ne peut pas se reproduire comme le sexe informatif. Donc vous imaginez le BDSM déjà qu'on ne peut pas changer de position.
On n'y était pas. Okay.
Donc y a une libération déjà de ce côté-là. Et la deuxième chose, c'est que les réseaux sociaux facilitent parce qu'il faut trouver des gens
bien sûr.
Où on pratique ça sans forcément se mettre en danger, en difficulté. Donc, et puis de nos jours, il y a aussi cette tendance à vouloir un peu explorer. Des couples qui, pour mettre un peu de piment dans leur vie, ils vont essayer d'autres choses. Dans le BDSM, savoir s'il y a une anomalie ou pas, c'est toujours la même chose en santé sexuelle. C'est est-ce que c'est quelque chose qui m'échappe ou est-ce que c'est quelque chose que je maîtrise? C'est-à-dire, si je ne fais pas ces séances-là, je vais mal. J'en ai besoin pour vivre et sinon, je me sens mal. C'est que ça m'échappe complètement. Et la deuxième, c'est est-ce que je suis en train de mettre en difficulté quelqu'un?
Oui, c'est ça.
Si je fais le BDSM et que la personne avec moi ou d'autres personnes sont en difficulté parce que je les pousse à faire ça, c'est que c'est quelque chose qui m'échappe aussi.
Oui, bien sûr.
La règle, c'est pas d'obligation. Mm-hmm. Et d'ailleurs, en général, dans les couples BDSM et dans les groupes BDSM, il y a des codes, des lignes rouges.
Oui, oui, bien sûr, il y a des mots, il y a plein de
parce
choses.
Parce que, vous savez, dans le BDSM, si la personne commence à dire arrête, arrête, ben, ça peut être le signal de continuer.
Oui.
Donc, il faut qu'il y ait des...
le safety word est
important. Le safety word
est essentiel pour ne pas dépasser certaines...
D'accord. Et donc, tu disais qu'il y avait de plus en plus de pratiques un peu, justement, hors cadre.
Oui, et d'ailleurs, c'est rigolo parce que dans certains couples, la pratique exceptionnelle, ça va être le soir où ils vont faire l'amour tranquillement. Ils vont dire waouh, on avait oublié ce que c'était.
On a regardé
tellement...
Netflix, ouais. Et après on a eu un rapport sans chaîne. C'était
on
super.
On a couché les gamins, on a rangé la chaussette et puis on a fait c'est dans la
bien.
Position missionnaire. Waouh, c'est wow. Exceptionnel. Ouais. ça se voit par exemple dans des pays, enfin ça se voyait il y a une vingtaine d'années dans des pays où. C'était interdit encore de faire l'amour avant le mariage, où les gens étaient obligés d'aller faire ça dans leur bagnole, en cachette chez des copains, etc. Et donc, le jour où ils faisaient l'amour tranquillement dans leur lit conjugal, c'était
ouais,
wow,
bien
sensation.
J'imagine. J'imagine.
Et donc, il y a de plus en plus de pratiques, et pas que BDSM, essayage de vibromasseurs de toutes sortes.
Oui, les toys, ouais.
Alors, ce qui est rigolo, c'est quand on voit les enquêtes là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ont essayé des nouveautés. C'est pas loin de 80% des gens qui ont essayé au moins une nouveauté.
Dans des vies de couple déjà.
Oui, dans les relations de couple. Mais seulement 15% disent le faire régulièrement. Donc ça veut dire que pour la majorité, c'est par curiosité, pour
voir.
Oui,
histoire
de
pimenter un peu. Ouais.
Voilà. Mais il y a que 15% chez qui c'est vraiment une pratique très régulière.
Bah moi, pas mal de garçons qui m'ont parlé des quand ils ont essayé les clubs échangistes, la déception que c'est. Parce que finalement, ils s'imaginaient une espèce de temple, tu vois, les tentures rouges, que des nanas sublimes sur des talons, etc. Et en fait, tous me reviennent avec ce mot, c'est glauque. C'est, en fait, les nanas sont souvent en petite cinquantaine d'années, les mecs sont un peu ventripotents, pas très sexy.
Arrête.
Enfin, j'ai pas dit ça, Gilbert. Non. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est assez...
Moi, j'ai des couples, par exemple, qui vont dans des clubs libertins, qui il se passe rien là-bas. Mais rien, ils vont juste boire un verre. Par contre, c'est ce qui fait qu'ils ont envie de faire l'amour ce jour-là.
D'accord.
Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est tellement variable d'une personne à une autre. Et la même personne qui a dit « j'ai été là-dedans, c'était glauque, c'était bizarre, etc. » Si ça se trouve, 2 ans plus tard, il va y retourner dans d'autres circonstances, à un autre
bien
endroit
sûr.
Avec d'autres personnes, et ça va passer. Et l'inverse. Hein.
Ouais, ouais.
Il y a combien de couples ont dit « moi, c'est lui ou elle qui m'a initié à ça ». Puis il y a celui qui a initié 1 ou 2 ans plus tard, c'était plus trop son trip, sauf que la personne initiée voulait continuer.
L'élève a dépassé le maître, bien sûr, évidemment. Ok, on a parlé de pas mal de choses. Est-ce que toi, tu vois encore d'autres questions, Simon ?
Quelque chose sur la masturbation. Pourquoi continuer à se masturber quand ils ont une partenaire ?
Ah, excellent. Excellente question. D'ailleurs... chiffre très 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 intéressant, c'est la première enquête de sexualité où on a vraiment fait le point sur la masturbation féminine et figurez-vous que c'est les mêmes chiffres que chez les hommes.
Ah.
Les femmes en couple,
incroyable.
La majorité d'entre elles continuent à se masturber.
Mais ne le disent pas.
Mais c'est pas pour les mêmes raisons pour lesquelles on fait l'amour. Par exemple, la masturbation peut être un anti-stress. L'amour peut être un anti-stress aussi. Il y a des mecs par exemple qui disent « moi quand je me masturbe ça m'aide à dormir ».
Ah oui, j'en
ai
rien
à voir.
Plein qui m'ont dit ça,
moi.
On a
une belle décharge d'hormones. Voilà. Donc, on peut continuer à se masturber, parfois par frustration, ça fait 2-3 semaines. Il y a un petit problème qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir des rapports. Madame a des soucis ou il y a un petit conflit. Et donc, par frustration, on peut être amené à se masturber. Et quelquefois, pour des raisons complémentaires.
Oui, mais c'est ça, il faut décorréler vraiment la masturbation et la sexualité
du partenaire.
Hein. Complètement. Il y en a plein qui... Moi, enfin, je connais, et j'espère que ça t'en a changé, mais des nanas qui pensent que parce que leur mec se masturbe, elle les trompe. Enfin, il n'est pas satisfait, alors que ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir, et ils ne se masturbent pas pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont choquées d'apprendre que leur mec se masturbe.
Ah ouais.
Mesdames qui nous écoutons, 80% le font.
Ah ouais.
Et 80% des femmes le font. D'ailleurs, les femmes qui disent ça, il faudrait qu'elles se posent la question, le jour où je me masturbe, est-ce que dans ma tête, c'est quelque chose qui m'éloigne de mon mec ?
Pas du tout. Ouais. Enfin, ça n'a aucun...
C'est un peu, je reprends l'exemple de la nourriture, c'est la différence entre je vais au resto avec ma femme et entre temps en temps, sans rien dire à personne, je vais me faire un bon sandwich quelque part.
Un
ou
petit
un bon
kebab
repas,
tout seul, un peu honteux, mais
juste,
bon,
je me fais mon petit trip, voilà, un truc.
Non, mais c'est un plaisir super personnel en fait.
Et ça n'a rien à voir avec le fait que j'adore aller au resto avec elle.
Bien sûr, complètement. C'est vrai, ouais.
Et il ne faut pas oublier que chez les hommes, la masturbation a un rôle beaucoup plus puissant anti-stress que chez les femmes parce qu'il y a des belles décharges hormonales derrière.
Et est-ce qu'il y a une norme, parce que pareil, j'avais un garçon qui me racontait, et ça avait fait un peu d'effet sur les réseaux sociaux, lui se masturbe 5-6 fois par jour, depuis toujours, il a 38 ans, et pour lui c'est sa norme, mais comme ils n'en parlent pas trop entre eux,
ils savent pas.
Lui en fait, pour le coup, ce mec n'avait pas envie de se comparer et était très bien dans ses baskets. Mais j'ai eu pas mal d'internautes qui m'ont dit « mais c'est pas possible, 5-6 fois par jour ».
La question est toujours la même. C'est pas le chiffre, c'est le vécu. Par exemple, si cet homme, on lui dit « le jour où tu ne peux pas le faire », qu'est-ce qui se passe ? S'il dit « bah rien, j'attends le jour où je peux le faire », c'est que tout va bien. Mmh. S'il dit « bah le jour où je peux pas le faire, je suis pas bien ». Il me manque quelque chose, je suis un peu tendu. Si par exemple j'avais prévu de me masturber, puis d'un coup il y a du monde qui arrive à la maison, ou j'ai un truc urgent à faire, je suis super agacé, énervé, c'est que c'est un besoin.
Ça commence, ouais, à devenir une dépendance.
Par contre, si je me masturbe à chaque fois que j'ai le temps, c'est tout, c'est juste un hobby comme ça.
En tout cas, ça avait l'air d'être ça, mais après je ne vais pas poser ces questions.
Et ensuite, faut poser la deuxième question, est-ce que ça gêne la vie relationnelle ? Par exemple, quelqu'un qui se masturbe beaucoup, qui dit « je peux m'en passer, mais je me masturbe énormément ». Et en même temps, j'ai une vie relationnelle. Je sais aller vers les femmes, séduire, avoir une relation, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, quand ça devient sa vie sexuelle, donc ce que je disais tout à l'heure, un auto-sexuel.
Les auto-sexuels, bien sûr.
Là, ça pose problème parce qu'il aura du mal à construire. Il est en couple.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de forums sur le sujet, beaucoup de vidéos. On parle du NoFap challenge, parce que FAP, c'est le bruit de quand on se masturbe, d'accord. Donc, NoFap, généralement, le challenge NoFap,
c'est les blue balls.
C'est pendant un mois, voilà. L'objectif, si on se dit, OK, pendant un mois, j'arrête véritablement de me masturber, j'essaie d'arrêter le porno peut-être pendant un mois, parce que ça va te pousser vraiment, si c'est ta seule sexualité, ça va te pousser à aller vers l'autre. C'est censé t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, parce que dans le NoFap, on estime que bon, gars, t'es trop sur tes jeux vidéo, trop sur le porno, tu passes ta vie tout seul. Il est grand temps que tu t'ouvres aux autres, c'est pour ça. Allez hop, un mois d'abstinence, plus de masturbation. Ça devient gênant quand, effectivement, vie relationnelle et vie professionnelle aussi, quand tu vois, tu fais sauter des rendez-vous, quand t'arrives en retard, quand t'es au travail, tu vas t'enfermer. Si c'est discret, si ça va bien, mais quand ça devient vraiment un besoin, faut se poser des questions. Pour ça, 5-6 fois par jour, le mec qui est mort, c'était 13, je crois. C'était un Asiatique.
Il est mort de ça ?
Ouais.
C'est une mort sèche.
Mais il mangeait plus.
Comment tu meurs de te masturber 13 fois ?
Je sais plus.
Si t'es cardiaque, par exemple, tu peux pas. Parce qu'en fait, au moment de l'orgasme, il y a des augmentations du rythme cardiaque, de la respiration, de la tension, etc.
Bah j'enverrai un petit message. Tu feras un petit...
T'arrêtes à 12, hein.
Soit tu fais du sport, soit tu te masturbes.
En même temps, il était fit, hein. Peut-être c'était sa condition physique, hein. Je sais pas. Ok, qu'est-ce qu'on apprend des choses ? Les moyens de contraception hors préservatif.
Oui.
Parce que ça, c'est des nanas beaucoup qui m'ont demandé au bout d'un.
Il y a le préservatif féminin, mais c'est toujours la femme qui.
Ouais. Alors, et puis c'est vraiment pas chouette.
Pas ça glamour.
Alors déjà, bon, glamour, on n'en parle même pas, mais même c'est pas très, tu vois.
Moi, c'est le bruit, je trouve. Bruit qu'un sac de Auchan.
Oui, c'est un sac plastique. c'est pas très saillant.
Les moyens de contraception chez l'homme, il y a la vasectomie qui est connue.
Réversible ou pas réversible, ça j'ai ce débat.
Oui.
Maintenant,
non,
c'est pour tous les hommes.
J'avais lu des stats, c'est beaucoup moins en France que dans plein d'autres pays.
Dans les pays anglo-saxons, c'est
en Australie, je crois. En Nouvelle-Zélande, c'est 70%, quelque chose comme ça.
En France, les hommes le vivent mal, ils ont l'impression qu'on va leur couper les couilles.
Mais c'est réversible pour tous les hommes.
Pour la très grande majorité des hommes, oui. Et pour information, on ne fait jamais de vasectomie en France sans avoir sauvegardé le sperme avant. C'est-à-dire, au pire des cas, ce n'est pas réversible. Il y a du sperme sauvegardé au congélateur, pas à la maison, hein, au sécos.
Je m'en doute que ce n'est pas avec,
Par
avec
contre,
les glaces et
les
mistoprises.
Les hommes le vivent super mal. Ils disent, tiens, on va me couper un truc.
D'accord, oui.
C'est plus psychologique.
C'est la virilité qui en prend un coup.
Exactement.
D'accord.
Et actuellement, il y a des nouvelles recherches sur la pilule masculine, avec des résultats assez intéressants. Ça avait été laissé tomber il y a quelques années, puis c'est revenu maintenant. Alors, un truc rigolo, je suis sûr que ça va vous faire réagir, c'est que les experts disent on ne sait pas si on va continuer à développer la pilule masculine, parce qu'il y a quand même un peu trop d'effets secondaires. Lesquels ? Prise de poids, changement d'humeur et diminution de la libido. Et là, on se dit, tiens, c'est marrant, c'est les mêmes que la pilule.
Par contre,
pour les mecs, c'est inadmissible de développer une pilule comme ça, alors que pour la femme, c'est pas grave.
Surtout que les femmes
prennent... Allez, on balance.
Ouais, puis surtout, les premières générations étaient quand même... Au-delà de ça, t'avais des problèmes de pilosité, de peau,
Donc, il y a toujours les recherches là-dessus sur la pilule masculine. Et puis, il y a un tout dernier phénomène qui donne qui est une sorte de contraception naturelle, c'est le fait d'exposer les testicules à des chaleurs élevées continues. Par exemple, les mecs qui travaillent dans les fourneaux, on sait qu'ils vont... C'est quelqu'un qui a 39 de température en continu, ses spermatozoïdes vont s'altérer, par exemple. Quelqu'un qui fait un spermogramme et les spermatozoïdes sont altérés, la première chose qu'on va lui demander, c'est est-ce qu'il a fait une grippe il y a 2-3 mois.
Il a une grosse, grosse chaleur.
Et donc, si on s'expose à la chaleur, et donc il y avait des études sur un slip chauffant, qui serait contraceptif. Le problème, c'est qu'il fallait le porter 16-18 heures par jour. Donc voilà, on cherche, mais c'est pas au point.
Mais si tu bosses avec ton ordinateur sur les genoux, il y a moyen que ça baisse.
Plus le slip chauffant, ça peut.
Ça t'est bien, t'es au chaud.
10 heures par jour, l'ordinateur, t'as même plus besoin qu'il t'altère les spermatozoïdes, tu feras même plus l'amour. Donc
à ce moment-là, ouais, ça va. Ouais.
Bon. Non, c'est un rapport aux écrans.
Rapport aux écrans, on le disait tout à l'heure, on va être 10 heures scotché à l'écran.
Ah, mais attends, je suis en train de faire un calcul. On est quand on travaille un peu beaucoup, on est facile, 8-10 heures par jour sur l'écran.
Oui, mais les ordi chauffent moins qu'avant. Je pense que là, les ordi sont plus performants, je trouve.
Mais bon, sur les écrans, même nous, notre consommation, même si tu vois les réseaux sociaux, etc., on lâche l'appareil à la maison, on est quand même beaucoup sur les ordi.
C'est peu connu, mais il y a 3 pays qui l'ont démontré, parce qu'il n'y a que 3 pays qui ont la chance d'avoir ces chiffres: l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis. Les personnes de moins de 30 ans aujourd'hui ont 15 à 20% de rapports sexuels en moins que les personnes de moins de 30 ans il y a 30 ans.
Bien sûr.
Alors j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus sexuelles.
En fait, c'est beaucoup plus libéré, mais on le fait moins souvent.
Eh ouais, l'interdit, en fait, ça donnait envie.
Dans un couple, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait 3 chaînes télé.
Netflix, à tout tuer.
Quand on s'ennuyait, on faisait l'amour.
Non, mais je pense qu'aussi, les mômes aujourd'hui, comme ils peuvent voir les femmes, des femmes ou des garçons nus, parce que hétéro et homo, mais en tout cas, les jeunes gens d'aujourd'hui peuvent avoir tous les corps qu'ils veulent, il n'y a plus le truc de découverte, tu vois, avec ton téléphone, t'as accès à tout, quoi.
Il y a une fréquence des rapports sexuels qui
diminue
très significativement en dessous des gens de moins de 30 ans il y a une trentaine d'années. Ouais.
Incroyable.
Et c'est quelque chose d'assez net. Alors, la plupart des experts l'attribuent aux réseaux sociaux, justement, aux connexions, etc. Probablement qu'il y a aussi le mode de vie. Comme on reste célibataire plus longtemps, on a forcément moins de rapports sexuels que quand on est en couple dès l'âge de 22-23 ans, ça pouvait arriver. Il y a aussi le fait qu'on peut être en couple. La vie de couple est un peu plus stressante, je trouve, de nos jours qu'il y a une trentaine d'années. Il y a l'instabilité par rapport à l'avenir. Avant, le projet, c'était d'acheter, par exemple, une maison. Maintenant, on ne sait même pas dans quelle ville on va habiter dans 5 ans. Donc, je pense qu'il y a pas mal de facteurs qui font que les jeunes de nos jours ont une vie sexuelle plus libérée. Ils ont beaucoup plus de possibilités, mais ils font l'amour un peu moins souvent que leurs parents, alors, au même âge.
Pour revenir sur les moyens de contraception, je voyais là sur le forum, sur Art de séduire, hier, je suis allé me promener pour préparer un peu tout. Ça reste quand même tout ce qui est pratique alternative non fécondante, peut-être. Donc, ça revenait toujours. Fellation, retrait, sodomie, tous ces trucs, pas de risque. Voilà.
Pas de risque pour le mec.
Merci.
C'est ça. On parlait de contraception.
Ouais.
C'est vrai. Pourquoi ne pas y penser plus tôt?
Allons jusqu'au bout, ne faites pas l'amour.
C'est ça, abstinence. Voilà. Simon, il est OK, abstinence. OK. je pense qu'on a bien fait le tour, là. Hein.
On a été en profondeur.
Ah ouais. Ouais.
Est-ce que les hommes sont sensibles des tétons?
Ça dépend la forme des tétons. C'est des amis qui adorent vraiment se faire caresser, se faire lécher les tétons. À titre personnel, Simon, ça ne l'intéresse pas. Moi non plus, ça ne m'intéresse pas du tout.
C'est pour ça que j'ai posé la question.
Tu n'es pas seul, Simon. On est un club de.
T'as un sous-forum sur Art de séduire ou pas?
Probablement sur les problèmes de tétons.
Ok, donc. je reste ébobie devant ce débat. Après, la dernière question, enfin, je l'ai gardée parce que je l'ai pas fait pour toutes les questions que j'ai reçues, mais celle-ci, je suis allée sur le profil de la personne qui me l'a envoyée. C'était un très très jeune garçon et qui m'a dit comment on sait si son pénis s'agrandit ou pas. J'ai trouvé ça hyper.
Avec l'âge ou au moment de l'érection?
Je pense qu'il n'était pas pubère en fait.
Ouais.
Donc c'est pour ça que je l'ai gardé, parce que je voudrais que tu rassures les jeunes gens et les pré-ados, quoi.
Chez les pré-ados, il ne faut pas avoir peur. Le pénis peut mettre un peu de temps à pousser au début, donc il ne faut pas flipper. Il va finir par pousser. Par contre, chez les ados et pré-ados, il y a un truc dont on en parlait tout à l'heure, le syndrome des vestiaires, qu'il faut connaître. c'est que la taille au repos ne correspond pas à la taille en érection. On peut avoir un très petit sexe
au repos
et un sexe normal en érection. Il y a par exemple des sexes qui passent de 12 cm au repos à 14 cm en érection et d'autres qui passent de 8 cm au repos à 16 en érection.
Mmh.
Donc, ce qu'il faut savoir pour les jeunes hommes, c'est que la taille au repos dépend surtout de l'état de stress et de la température.
Oui, c'est ça.
Plus on a froid, plus on est tendu, plus il rentre.
Ok.
Donc, si on veut que le sexe soit tranquille, détendu à l'extérieur. Et puis, dernière chose, pour ça, parce que beaucoup de mecs se disent, est-ce que j'ai une taille normale de sexe? On ne fixe jamais la taille avant l'âge de 18 ans. Par contre, c'est vrai qu'il y a des chiffres pour les prépubères pour dire est-ce qu'il y a un micro-pénis qui se prépare. Et ça, c'est des tables là qu'on ne peut pas dire. Le médecin doit mesurer exactement.
Mesure à partir d'où? Des alors, bourses ou de là?
Il y a les chiffres que je vais donner de la taille normale du pénis. C'est selon une technique de mesure bien précise. On part de l'os qu'il y a au-dessus du pénis. On appuie sur l'os.
Okay.
C'est le seul repère fixe. C'est l'os, parce qu'en fonction de la graisse qu'on a, le ventre, tout ça.
Oui, et puis là, oui.
En érection, avec un ruban, pas avec une règle, parce que si le sexe courbe un
et
peu,
courbe,
on va perdre quelques millimètres. Voilà. Et on va jusqu'au bout du gland, donc sur la partie haute, c'est-à-dire la partie qu'on voit du pénis.
On rajoute 3 cm.
Non, si on est. Si
c'est
on
ça
est
la formule officielle.
Si on est interrogé. Cette technique.
Mesure plus 3 égale taille. Ok. Ok.
Et donc, en mesurant comme ça, la taille moyenne en Europe est aux alentours de 13. Et on oublie les 16, 17. D'ailleurs, les chiffres qu'on a où les tailles sont très élevées dans les études, c'est toutes des études où on a demandé aux mecs de mesurer eux-mêmes.
Et de nous déclaratif.
23, pourquoi voilà. Normal.
Et donc, ça donnait des chiffres. Les deux seules études au monde où c'est une équipe médicale qui a mesuré la taille du pénis chez plus de 1500 hommes. Donc, c'est la même équipe qui a mesuré la même technique. Donc là, les mecs ne pouvaient pas trop tricher. C'était en moyenne 13 cm en érection.
D'accord.
T'imagines quand même le protocole de test où tu devais mettre le mètre en érection, le mesurer juste pour...
Non, avec le ruban.
Imaginer que le mec devait bander pour se faire mesurer.
Oui, c'est ça, je veux dire. C'est ça qui était bizarre. Quoi.
Il y a eu beaucoup de stimuli visuels, énormément.
Bon, je vous dis l'astuce qui a été utilisée. En fait, c'est des gens qui ont accepté d'avoir un médicament stimulant de l'érection.
Ah oui.
Et même parfois en injection, c'est-à-dire quelque chose qui provoque l'érection même d'accord. En l'absence d'excitation.
D'accord. Donc là, c'est que mécanique.
Oui, là, c'était de la mécanique
d'accord.
Pure.
Ok. Bon, super.
Ça pouvait être perturbant quand même de bander entre les mains du médecin. Qui
avec tous les mecs à la file, j'imagine.
Il faisait la queue, c'est ça.
Pas mal.
On
joli.
Finit sur un bon jeu de mots d'hiver encore.
Merci Gilbert. Bon bah super, bah merci beaucoup en tout cas, c'était hyper intéressant. Est-ce que vous avez des choses à rajouter?
Je rajouterais juste, si vous avez parfois du mal effectivement à séduire, à aller vers les femmes et que votre souci premier est d'ordre sexuel, parlez-en à des spécialistes, allez sur charles.co, discutez avec des spécialistes qui vous aideront vraiment parce que la vie sexuelle d'un homme, elle est quand même très très importante, elle est importante dans le couple, elle est importante pour vous et ce serait dommage que ça vous bloque dans vos rapports avec les autres. Donc ne pensez pas que c'est juste un aboutissement, c'est très très important.
Ok, super.
J'ajouterai deux petites choses. Règle de base, on ne fait pas l'amour comme il faut, mais comme on a envie. On oublie comment il faut faire et on regarde comment on a envie de faire et qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Deuxième règle, quand on a une difficulté sur le plan intime, sur le plan sexuel, surtout on ne la laisse pas traîner dans le temps parce que plus le temps passe, plus on va avoir des conséquences psychologiques négatives et on va douter et plus ça sera difficile à gérer et à régler plus tard. Donc quand on a une difficulté, maintenant il y a tous les moyens, c'est simple. On peut consulter sur la plateforme charles.co, sur plein d'endroits où on peut maintenant trouver de l'aide.
Super.
Et juste dernier message, c'est aussi les femmes qui ont un rôle à jouer là-dedans. Parce que nous, on voit beaucoup sur la plateforme, c'est souvent des femmes qui poussent leur homme, qui lui disent « c'est pas grave, tu peux aller consulter ». On a même pas mal de femmes qui appellent pour leurs copains en amont. Donc les femmes ont un rôle à jouer aussi dans la libération de la parole et dans les aider à s'ouvrir.
Ok, bah, merci beaucoup infiniment.
Merci.
Super.
Merci de nous avoir accueillis.
Salut.
Merci.
Merci pour votre écoute de cet épisode un peu spécial qui clôture cette toute première saison de On the Verge. Merci infiniment au docteur Gilbert Boujaoudé, merci à Selim Niederhofer et merci à Simon Burelier de Charles.co pour leur venue et les réponses qu'ils ont apportées à toutes vos questions. Je vous souhaite encore une fois un excellent été et on se retrouve le 5 septembre. À très vite et je reste sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à venir me voir et on se parle. Au revoir.